Je travaille outre-mer à la station de Sète, en Languedoc-Roussillon. Donc je vais vous présenter alors, un petit état de connaissance enfin, autour des produits phyto sur les lagunes. Donc, je vais faire ma présentation d'ici avec un pointeur si possible. Ouais. Okay, très bien. J'avais séparé en deux un peu ma présentation pour vous présenter un peu les écosystèmes lagunaires. Je pense que tout le monde est à peu près au courant de ce que c'est une lagune. Et puis en plus, ça a été déjà un peu introduit. C'est quand même une spécificité méditerranéenne. Donc je vais revenir un tout petit peu là-dessus, mais rapidement, pour ensuite vous parler un peu plus avant des produits phytosanitaires, enfin des pesticides. Mais surtout, je voulais axer mon discours autour des lagunes sur le fait que ce sont quand même des écosystèmes d'interface. Donc, qu'est-ce que j'entends par interface? C'est qu'ils sont vraiment placés entre différents milieux, différents compartiments des écosystèmes. Donc, que ce soit la mer, donc l'interface entre la mer et le continent, une interface entre l'atmosphère et la colonne d'eau, donc qui peuvent recevoir effectivement différents types d'apports, hein, qui sont liés à ces différents types de compartiments. Et donc, ils sont surtout une interface, en fait, un milieu de transition qui va recueillir tous les apports issus du milieu continental et de leur bassin versant. Donc ça va être des apports diffus, issus du lessivage, ce qu'on appelle le lessivage des sols, hein, des sols agricoles ou des sols urbains, on en a parlé. Des apports de cours d'eau, comme c'est figuré sur ce schéma ici, qui vont aller recueillir d'autres types d'apports de stations d'épuration, mais en amont sur le bassin versant, ou des apports directs qui peuvent être d'agglomération ou qui sont sur le pourtour de ces lagunes. Ou parfois des apports liés aussi aux activités même au sein de ces lagunes. Donc le nautisme, la conchiculture, des choses comme ça. Donc une petite photo satellite là pour bien prendre en compte là, le fait que chez nous, donc en Languedoc-Roussillon, mais en PACA également, on a quand même cette spécificité qui est nationale ici, avec des écosystèmes littoraux, lagunaires, qui sont vraiment à l'interface hein, entre toute la partie continentale, une partie de plus en plus urbanisée, on va y revenir, et le milieu marin ouvert. Donc ils vont concentrer, hein, ils ont ce rôle-là, en fait, ils reçoivent tous ces apports et ils en redistribuent une partie, ils en assimilent une autre partie aussi. Ça va pouvoir avoir des conséquences parce que pour la plupart, ces lagunes sont plus ou moins fermées. Donc leur assimilation... des intrants, en fait, hein, de tout type d'intrants, ça peut être des pesticides, ça peut être aussi de l'azote, du phosphore, va être plus ou moins difficile, plus ou moins aisé, en fonction de leur ouverture sur la mer, en fonction de la grandeur de leur bassin versant également. Donc, par exemple, là, pour vous figurer des surfaces de bassin versant par rapport à une surface de lagune, donc on a remis tout en termes de surface de lagune à une unité de surface de lagune, et par exemple, vous voyez que pour Canet, l'étang de Canet, on a 63 fois plus de surface de bassin versant que la surface de la lagune. Donc forcément, cette lagune-là, elle va être beaucoup plus impactée par tous les apports de son bassin versant que d'autres lagunes, que sont l'étang de Thau ou l'étang de Salles-le-Cat, qui, avec ces rapports-là, vous voyez, on a des rapports de 1 sur 3, 1 sur 6, pas plus, quoi. Et par ailleurs, en plus, ce sont des lagunes qui sont un peu plus ouvertes sur la mer et donc qui ont des capacités d'exportation, en fait, et finalement d'assimilation des contaminants, de l'azote et du phosphore qui sont un peu plus importantes. Donc je reviens sur un point important, je pense, de la journée. Sans doute que d'autres personnes en reparleront, mais en tout cas, je pense que c'est bien d'introduire cette partie-là. C'est l'urbanisation. L'urbanisation sur ces bassins versants des lagunes est de plus en plus importante. Alors, on n'y peut pas grand-chose. Enfin, bien sûr, on peut la contrôler. Je pense qu'il y a des choses à faire pour la contrôler. En tout cas, il faut la contrôler, il faut la gérer. Il faut la gérer pourquoi? Parce que plus on est urbanisé et plus ça va avoir des impacts sur ces lagunes. Hein, plus le bassin versant est urbanisé, plus il va y avoir des impacts. Alors, ça va être des impacts. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la problématique pesticides. Mais il n'y a pas que cette problématique qui peut perturber les lagunes, hein, aussi toute la problématique d'eutrophisation ou d'autres types de problématiques, les aménagements qui vont pouvoir perturber le fonctionnement de ces écosystèmes. Donc attention, effectivement, alors déjà le sud de la France est une région qui est attractive hein, au niveau de la population, mais en plus quand on regarde les écosystèmes littoraux et les bassins versants littoraux, et plus particulièrement les bassins versants des lagunes littorales, on s'aperçoit que ce sont dans les départements côtiers les zones qui sont encore les plus attractives. Avec bon, plus de 60% dans la série Languedoc-Roussillon. Alors je m'excuse, je m'appuie beaucoup sur Languedoc-Roussillon, mais je pense qu'en PACA, ça, c'est la même chose, voire pire au niveau de l'accroissement de la population sur les dernières années. Donc pour conclure rapidement, bon, je n'ai pas voulu m'apesantir là-dessus, je pense qu'il y a des personnes au pôle qui sont bien plus calées que moi pour décrire un peu tous les aspects, tout l'intérêt des lagunes, à les préserver, tous les intérêts écologiques et patrimoniaux, économiques également, pour les préserver. Mais c'était simplement vraiment pour resituer la lagune dans un contexte un peu plus littoral, à l'interface de différents compartiments qui, chacun, que ce soit l'atmosphère, le bassin versant, même les sédiments à l'intérieur d'une lagune, peuvent contaminer, peuvent dérégler en fait l'écosystème. Donc ces écosystèmes lagunaires qui sont à la fois riches, diversifiés, dynamiques, productifs, enfin bon. Je passe assez vite sur ces choses-là, je pense qu'on en est tous conscients ici autour de la table que ce sont des écosystèmes fragiles et qu'il faut préserver. Pour en arriver donc au cœur de la présentation, qui va donc s'attacher à vous décrire un peu l'état des connaissances sur les produits phytosanitaires, alors les pesticides, on va voir les deux appellations, sur les lagunes. Alors un peu d'étymologie, je pense qu'il faut redéfinir un peu les choses avant de passer dans le concret. Qu'est-ce que c'est qu'un pesticide? Alors il y a le préfixe, on peut le décomposer en préfixe et un suffixe, peste. De l'anglais qui signifie animal, la peste, c'est les insectes, les animaux, les organismes nuisibles, qui lui-même, en fait, ce préfixe provient historiquement du latin, pestis, qui signifiait fléau, ou maladie dangereuse. Et un suffixe cid, qui signifie, lui, qui vient clairement du latin, quedo, quedere, et qui signifie tuer. Donc au sens strict du terme pesticide, c'est un produit chimique qui est destiné à éliminer, tuer tous les organismes dits nuisibles, animaux ou végétaux. Alors il y a plusieurs dénominations pour décrire les pesticides. Donc on peut parler également, vous avez peut-être entendu parler de biocides, qui est là plus des produits qui sont utilisés dans hors contexte agricole, mais qui sont des produits dont l'étymologie, indique bien le sens, l'utilisation, qui est tuer, cid, la vie, la biologie. D'accord ? Donc là, vraiment une notion qui est de dangerosité qui a derrière ces mots-là, pesticides, biocides. Et on voit que d'autres synonymes se sont immiscés dans le langage courant, comme xénobiotique, ça vient du grec, une préfixe xénos qui signifie étranger, au bios, au biotique, à la vie, quoi. Étranger à la vie. Donc là déjà, on a un peu moins la notion de dangerosité. C'est juste une notion de quelque chose qui vient d'ailleurs, qui est apporté par l'homme dans un environnement naturel. Et ensuite, on passe à des produits phytopharmaceutiques. Vous avez sans doute entendu ou même utilisé ce terme-là. Et donc là, clairement, la notion de dangerosité a disparu au profit d'une notion d'un produit qui lutterait contre les maladies des plantes. D'accord ? Donc là, on voit qu'on change un peu de notion, mais ce sont exactement, ça cible exactement les mêmes produits, les mêmes matières actives. C'est juste la terminologie qui change. Et enfin, on emploie beaucoup, je l'ai même employé dernièrement, le terme de produit phytosanitaire, beaucoup utilisé en agriculture, et qui là, clairement, c'est un produit qui agit pour la santé des plantes. Donc, tout ça pour vous dire assez rapidement qu'on est passé d'une notion de dangerosité à une notion de soin, tout ça par un savant mélange de communication, sans doute orchestré par des firmes phytopharmaceutiques ou de pesticides, pour essayer de nous ôter de l'idée que la plupart de ces produits restent quand même pour tuer, pour lutter, donc ont des effets nocifs pour lutter contre les pestes, les produits, les organismes dits nuisibles. Et donc, ils ont, pour nous ôter de l'idée et de l'esprit, qu'ils ont quand même des effets nocifs, à la fois pour tous ces organismes vivants, mais potentiellement aussi pour l'homme. Donc voilà, c'était cette petite parenthèse-là. Donc, dans le vif du sujet, les pesticides, qu'est-ce que c'est? Ce sont des composés chimiques, j'en ai déjà parlé. Alors, il y a plusieurs types je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des produits organiques, des produits minéraux, mais bon, qui servent à lutter contre les organismes dits nuisibles, des insectes, des herbes, des mauvaises herbes, des nématodes, etc. D'où plusieurs grandes classes de produits pesticides, des insecticides, pour lutter contre les insectes, des herbicides et des fongicides, etc. Donc, j'ai listé quelques sources principales, qui me semblent importantes, mais que vous connaissez, j'imagine. La source agricole, bien sûr, je pense qu'on peut pas, on peut pas l'éviter. C'est sans doute la majeure source de produits phytosanitaires à l'environnement. Toutes les sources liées au traitement du bois, des sols. Bien entendu, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, tout ce qui est entretien des espaces verts et de la voirie. Donc là, on est vraiment en milieu urbain, qui constitue également une source de produits phytosanitaires au milieu lagunaire et à l'environnement de manière plus générale. Les usages par les particuliers, là, toujours, on est dans le milieu urbain de manière... où les usages vétérinaires de produits phytosanitaires sont également importants, il ne faut surtout pas les sous-estimer. Et jusqu'il y a peu, je l'avais noté dans ma liste, mais j'ai mis cette petite parenthèse, c'était tous les aspects des moustications. Parce que nos collègues de l'EID, que j'ai rencontrés dernièrement, m'ont certifié que depuis quelques années, ils n'utilisaient plus de produits organiques. Donc c'est un agent biologique qui est utilisé pour lutter en amont de la prolifération des moustiques. Voilà, donc ça c'est pour les définitions, les sources principales, et on va bien entendu s'orienter un peu plus dans le reste de la journée sur les sources urbaines. Mais pour ma part, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que aujourd'hui, quels sont l'état des connaissances, alors encore très partiel, hein, vous le verrez, de la présence et des effets des produits phytosanitaires en milieu lagunaire. Donc le transfert, je vais aller assez vite parce que j'en ai un peu parlé, ça peut être du transfert éolien, hein, lorsqu'il y a des épandages, et il peut y avoir clairement du transfert éolien vers les milieux lagunaires. Ça peut être du transfert par lessivage des sols, c'est le point d'arrivée, en fait c'est le chemin d'arrivée le plus fréquent, hein, pour la plupart de ces produits, soit indirectement donc lorsqu'il y a des pluies via des ruisseaux, des cours d'eau, etc., qui se rejettent ensuite vers le milieu côtier et les lagunes, soit directement parce qu'on a, quand même des zones agricoles ou des zones urbaines qui sont à proximité des lagunes. Et donc on en a parlé, sur les zones urbaines, effectivement, il y a le lessivage des sols est beaucoup plus important. Et il peut y avoir des apports ponctuels, bien sûr, bon là j'en parlerai un peu moins, mais c'est surtout tout ce qui touche à des accidents. Il y en a eu en 2005 un gros accident au niveau de la Sorte sur l'étang de Bages, donc qui est une usine de conditionnement de produits phytosanitaires, et il y a une grande cuve de chlorpyréphos qui s'était déversée dans l'étang, donc ça avait fait énormément là. Donc là ça tue toute la faune et la flore, là c'est direct, hein, il n'y a pas de souci, on voit tous les poissons morts et ça contamine tout l'écosystème, donc interdiction bien sûr de consommer pour les pêcheurs et pour tous les usagers pendant plusieurs années. Hein. Donc c'est des accidents, il faut espérer que ça ne se reproduise pas, bien sûr. Donc quelques éléments de contexte, là aussi je vais aller vite parce que ce n'était pas le cœur de la présentation, mais bon, ça me semble important. La France, premier utilisateur de produits phytosanitaires en Europe, hein, bien sûr, en volume total, et troisième dans le monde. Donc ça resitue un peu les choses, c'est quand même qu'on est... On est les premiers utilisateurs. Donc là, des chiffres qui commencent à dater un peu, mais globalement, même si le Grenelle de l'environnement est passé par là et nous a demandé de réduire un peu nos apports, on reste le premier, la France est à ta gauche, le premier consommateur utilisateur de produits phyto en Europe. Et pour resituer un peu les choses, c'est à peu près, en moyenne, hein, quand on resitue sur tout l'ensemble des terres arables, on est à 5,4 kg de matière active par hectare. Donc ce qui nous situe sur ce critère-là, au quatrième rang européen, sur ce critère, et au-dessus de la moyenne européenne. Donc, avant d'arriver aux lagunes, il y a eu beaucoup de résultats qui sont sortis, notamment de l'agence de l'eau, je pense, sur les cours d'eau. Alors, pendant de nombreuses années, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est heurté à des problèmes de mesure dans les lagunes, et en milieu marin, on avait de grosses difficultés pour aller rechercher ces produits-là sur le milieu littoral. Donc jusqu'à il y a peu, on s'appuyait sur les données un peu amont, en disant que tout ce qui arrive par les cours d'eau, ben forcément ça va se retrouver dans le milieu marin. D'accord ? Donc en fait, on s'est longtemps appuyé sur ces données-là, qui étaient les seules données disponibles. Ces données-là, elles montraient quoi ? La contamination, elle touchait quasiment toutes les eaux, qu'elles soient superficielles ou souterraines. 96% des points de mesure réalisés par l'agence de l'eau sur les eaux superficielles étaient contaminés par des produits phytosanitaires. Donc là, je vous ai présenté les derniers résultats que j'avais trouvés sur 2007, 2008, 2009 par l'agence de l'eau. Donc les 10 pesticides les plus retrouvés en fréquence de quantification. Donc pour ces années-là, donc on voit qu'il y a un métabolite, l'AMPA, que vous connaissez peut-être, hein, qui est un métabolite du glyphosate, hein, le fameux Roundup. Mais il y a encore et surtout beaucoup de produits, surtout des herbicides qu'on retrouve en aval de ces cours d'eau qui se rejettent dans les lagunes, hein, bien sûr, et sur le littoral. Des herbicides qui sont interdits depuis déjà pas mal de temps, mais qu'on retrouve toujours. Bon. Donc ça, quand même, ça, c'est intéressant. Alors, pour vous expliquer comment ça se passait jusqu'à il y a peu, c'est qu'en fait, effectivement, on faisait un peu le bilan de tout ce qui arrivait par les cours d'eau. Donc là, on avait un cours d'eau, par exemple l'Aude, où on regardait tout ce qui était apporté. On voyait essentiellement, donc là, c'est la fréquence de détection et le nombre de molécules, donc enfin, les principales molécules retrouvées. En vert, vous voyez la couleur verte, c'est essentiellement des herbicides sur ce bassin versant-là. Et on pouvait, effectivement, ce qu'on retrouvait en aval des cours d'eau jusqu'à présent nous permettait de mieux connaître les usages qui étaient faits des produits phytosanitaires sur le bassin versant. Pourquoi ? Parce qu'on sait que certains produits phytosanitaires, donc ici pour l'Aude, l'atrazine, le métolachlore, le chlortoluron, sont des produits issus des grandes cultures, donc en fait, effectivement, ça correspond à un usage sur le bassin versant. La cimazine, le diuron, l'aminotriazole, la terbutilazine, des produits qui sont utilisés sur les vignes. Donc on savait pertinemment que, effectivement, sur ce bassin versant-là, c'était plutôt des usages agricoles qui entraînaient la contamination de nos lagunes. Sur d'autres bassins versants, donc là vous avez le Lez par exemple à Latte, donc en aval du Lez, hein, donc juste en amont des étangs palavasiens justement, on avait d'autres types de gris, vous voyez, donc là la couleur verte est un peu plus dissipée au profit d'une couleur orangée, qui signifie qu'il y avait plus de fongicides dans ces eaux, ou une couleur bleutée, plus d'insecticides dans ces eaux. Et donc quand on regarde le type d'insecticides qui était présent, donc là il y avait du lindane, du piperonide bleutoxide, enfin certains fongicides qui sont caractéristiques d'usage urbain. Donc clairement, on était là plutôt dans une contamination qui était de la communauté d'agglomération montpelliéraine, des usages plutôt urbains sur ce bassin versant-là. Donc en fonction de ce qu'on retrouvait en aval des cours d'eau, on pouvait effectivement remonter sur les, indirectement bien sûr, mais sur les usages sur le bassin versant. Et comme je vous l'ai dit, donc là on est dans les années fin des années 2000, hein, on a encore que des données sur les cours d'eau. Pourquoi ? Parce que les techniques n'étaient pas encore assez performantes pour aller chercher ces produits dans les lagunes, dans des milieux où les matrices sont très complexes, le milieu marin, des choses comme ça. Donc on avait très peu de données sur les eaux littorales jusqu'à il y a peu. Pourquoi ? Dans différentes raisons, je vous ai dit, faible représentativité spatiale et temporelle des échantillons d'eau, donc c'est très difficile d'aller prélever dans une lagune, un milieu marin, c'est très ouvert, les conditions sont... Donc il y a beaucoup de dilution aussi, hein, donc les concentrations qui sont apportées sont très diluées. On a des limites analytiques qui sont beaucoup plus importantes liées aux fortes dilutions, mais liées aux effets de matrice du milieu marin, des effets de sel, des choses comme ça, qu'on n'a pas en milieu doux. Et donc, effectivement, il y a pas mal de produits qu'on pouvait retrouver en milieu doux. Et donc, en milieu marin, il y a aussi une multitude de petits exutoires qui fonctionnent comme des ouettes, hein, comme des ouettes, pardon, donc en discontinu, avec des apports discontinus, d'où la difficulté d'aller essayer de retrouver des choses. Mais on a, donc, jusqu'à dans les années 80, 90, 2000, on utilisait donc un type de suivi pour essayer de pallier à ces problématiques, là, en milieu marin. Le biomonitoring, donc le monitoring en utilisant des organismes bio-indicateurs, donc que j'ai représenté par des poches de moules ici. Donc on utilisait des poches de moules la plupart du temps, ou des coquillages, voire des poissons parfois, pour utiliser leur capacité intégrative et nous permettre de voir des choses qu'on n'arrivait pas à mettre en évidence en allant directement doser ces produits dans les eaux. Dernièrement, depuis la fin des années 2000, le début des années 2010, on va dire, on est passé à un monitoring passif, ce qu'on appelle, avec des échantillonneurs passifs, des outils qui nous permettent maintenant d'aller voir directement dans la colonne d'eau des produits qui seraient présents à l'état de trace. Et donc ça, c'est une grande nouveauté, c'est un grand plus, hein, puisque ça nous a permis en fait d'enlever nos œillères et d'aller voir des choses qui jusqu'à présent nous étaient inconnues. Donc, je reviens quand même sur les réseaux, parce que c'est quand même des réseaux historiques de l'Ifremer qui nous ont permis d'avancer sur ces thématiques-là des années 80 et même des années 70 jusqu'aux années 2000. Donc, le réseau RINBIO, réseau intégrateur biologique, qui nous a permis de poser des poches de moules sur l'ensemble des eaux méditerranéennes françaises pour aller échantillonner des contaminants qui étaient qui se bio-accumulaient. Hein, d'accord ? Et enfin, le ROC, l'anciennement, que vous avez sans doute connu sous le nom de RNO, le Réseau National d'Observation, qui maintenant s'appelle Réseau de Suivi de la Contamination Chimique, qui est en cours depuis 1979 et qui se poursuit, et qui, de la même façon, nous donne des informations sur tout un tas de contaminants. Mais pour l'ensemble de ces deux réseaux, en fait, hein, qui utilisent des organismes bio-indicateurs, Donc on ne pouvait voir que des contaminants qui se bioaccumulaient, qui étaient très bioaccumulables dans les lipides de ces organismes. D'accord ? Et c'est loin d'être la majorité des contaminants qui sont présents, qui sont utilisés aujourd'hui. D'accord ? Donc, ce qu'on pouvait en conclure, c'était quoi ? C'était que, par exemple, là, vous avez l'ensemble des points de suivi sur le littoral méditerranéen français qui sont figurés dans la carte en haut à gauche, et les concentrations en lindane, par exemple, en insecticide, sur l'ensemble de ces points. Donc, on voyait effectivement des sites. Alors, ici, c'est un site en mer ouverte, ici, en lagune, sur l'étang de l'Hérol, qui était contaminé par ce produit-là. Et le problème, c'est qu'en fait, ces poches de moules, enfin, ces deux réseaux ne permettaient de suivre que deux produits, deux insecticides, alors hautement toxiques, hein, là c'est ces organochlorés, on était vraiment dans les très toxiques, le lindane et le DDT. Alors certes, ils étaient très toxiques, mais par contre, la centaine, voire les milliers d'autres produits qui sont utilisés sur l'ensemble du littoral, on n'avait aucune idée de leur niveau de présence dans les masses d'eau littorales. Autre exemple, alors là, l'exemple en haut à gauche, c'est les mêmes sites, mais pour le DDT, donc le fameux DDT, hein, qui est interdit depuis les années 1970-1976. Donc on voit qu'on a spécifiquement, donc vous avez toutes les barres, les histogrammes verts à gauche du graphique, qui correspondent aux écosystèmes lagunaires de Languedoc-Roussillon et de PACA. Et ensuite, toutes les histogrammes bleus, les masses d'eau côtières. Donc on voit clairement que les écosystèmes lagunaires sont plus impactés par les traitements. Alors c'était issu des traitements insecticides, hein, qui ont été faits lors de la mise en place en fait des grandes infrastructures touristiques le long du littoral. Hein. Et donc il y a eu beaucoup de traitements qui étaient faits dans ces années-là.
Et la démoustication.
C'était la démoustication.
C'était la démoustication. Hein. Mais j'ai dit traitement insecticide, mais
oui,
c'était
bon,
c'était la démoustication, hein, bien sûr. Donc on voit qu'en fait ces produits-là qui sont très rémanents continuent à être présents. Alors ils décroissent, hein, vous voyez ici c'est le niveau de DDT dans les moules de l'étanto par exemple, ils décroissent depuis les années 70, heureusement, mais ils sont toujours présents et ils seront présents encore pendant des dizaines d'années parce que c'était vraiment des produits très 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 rémanents et très toxiques. Donc tous ces produits-là sont interdits, ont été progressivement interdits, donc on ne les utilise plus au profit de nouveaux produits. Mais le problème, c'est que ces nouveaux produits, en fait, ils ne s'absorbent pas sur les moules ni sur les coquillages, ou très peu. Donc, on avait vraiment du mal à les mettre en évidence, jusqu'à il y a peu. D'accord ? Donc, il y avait deux façons de faire. Soit on opérait avec des modèles, donc ce qu'on a essayé de faire jusqu'à dernièrement. Donc, là, vous avez un exemple de l'étang de Bâche. Donc, alors, je ne veux pas vous demander de regarder toutes les cases, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour vous donner le principe. C'était qu'on a modélisé un peu le bassin versant de l'étang de Bâche. On a regardé toutes les surfaces, comment elles étaient occupées avec des surfaces agricoles, quel type de végétation, de culture, quel type d'intrants étaient utilisés sur ces surfaces agricoles, les surfaces urbanisées, quel type de... On est allé voir les communes là-bas également, savoir qu'est-ce qu'ils utilisaient sur leurs surfaces urbanisées, sur leurs jardins. On a essayé d'évaluer aussi les apports par les particuliers aussi. Et on a regardé, au final, on a fait des bilans. Donc là, vous avez dans cette colonne les apports par an à la lagune de Bâche. Donc on a utilisé des ratios d'exportation, hein, pour chacun des types de sols, bien sûr, par les zones agricoles. Alors attendez, je vais vous... Voilà. Ici, cette colonne, ce sont les zones agricoles qui apportent tout un tas de produits qui sont utilisés sur ces zones, et les zones non agricoles, donc les zones urbaines. Et donc là, vous avez le total. C'est surtout ici qu'il faut regarder cette colonne, donc zone urbaine, et puis la colonne totale. Donc ce qui est important, c'est que par exemple le glyphosate, qui est de plus en plus utilisé, bien sûr, puisqu'on a éliminé pas mal d'autres produits qui étaient très toxiques, et celui-là est un des produits les plus utilisés aujourd'hui. Ce glyphosate, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que sur les temps de Bâche, on en apporte 1,5 tonne. 1,5 tonne par an sont apportées de glyphosate. Donc c'est la matière active brute, hein, là, c'est pas le Roundup même. Dans le Roundup, il y a d'autres adjuvants qui sont eux aussi apportés, mais là, le glyphosate, il y a 1,5 tonne qui est apportée par an. Et donc, si vous faites la somme, ensuite, je ne vais pas y arriver avec la souris, elle ne veut pas, elle est un peu pénible, mais de tous les produits phytosanitaires, alors on n'a pas pu, bien sûr, dénombrer l'ensemble, hein, donc il y a des cases qui sont restées rouges parce que les produits étaient interdits, donc théoriquement, n'étaient plus utilisés. Il y a des cases qui sont restées grises parce qu'on n'avait pas de données sur les usages en particulier, mais... tout ce qu'on a pu évaluer, alors là ça reste de la modélisation, mais ça nous donne des ordres de grandeur. Voilà, si on veut rechercher, c'est ces produits-là qu'on va aller rechercher et on va essayer de les retrouver. Donc, ça va nous permettre d'organiser les choses. Donc, ça, c'était une première façon de procéder en passant par le bassin versant des ratios d'exportation. Donc, je vous passe toutes les hypothèses, bien sûr, qu'il a fallu faire parce que bon, on ne maîtrise pas tous les paramètres de ces modèles, mais les ordres de grandeur sont là et sont robustes. L'autre façon de procéder, c'est d'aller voir, bien sûr, d'aller tester directement dans les masses d'eau. Et grâce aux avancées analytiques de ces 10 dernières années et aux avancées en termes d'échantillonnage avec le monitoring passif dont je vous ai parlé de ces 10 dernières années, on a maintenant les moyens, depuis peu, d'aller rechercher directement dans ces masses d'eau tout un tas de produits. Alors, d'ailleurs, on est appuyé par la directive 4 sur l'eau qui, depuis 2009, elle nous demande d'aller rechercher une quarantaine, alors là c'est les 33 principales, mais il y en a 41 en fait, parce qu'il y a deux annexes, quarantaine de produits chimiques pour lesquels la directive cadre a défini des normes de qualité environnementale. Donc pour tous ces produits, parmi cette liste, parmi lesquels vous voyez, il y a une dizaine de pesticides, nous disposons maintenant d'outils, en fait, de leviers pour essayer d'avancer, puisqu'on dispose de normes de qualité environnementale. On va pouvoir comparer les concentrations dans l'eau quand on les connaîtra, et on va y venir, à ces normes, et si on est au-dessus, ça voudra dire vraiment que il va y avoir un effet. Si on est au-dessous, en théorie, ça voudra dire que pour la molécule considérée, il n'y aura pas d'effet sur l'écosystème. Donc vous voyez, c'est une avancée importante, mais donc on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit qu'il y a une dizaine de produits phytosanitaires, à peine. Chaque année, il y a plus d'une centaine, enfin il y a des milliers de produits qui sont, enfin plus d'une centaine de produits phytosanitaires qui sont mis sur le marché chaque année. Et il y en a à peu près 500-600 qui sont couramment utilisés. Donc là encore, ça nous demande d'aller plus loin, mais bon, il y a encore du chemin, quoi. D'accord ? C'est mieux, effectivement, on a une nécessité de résultats, mais maintenant, c'est pas encore suffisant, il faut aller plus loin. Alors, on a mis en œuvre ces échantillonneurs passifs lors d'une étude en 2008 sur la façade méditerranéenne, pour tester ces nouveaux outils qui avaient été développés par des collègues américains et qu'on a pu récupérer et tester en France. Donc là, vous avez sur la façade méditerranéenne l'ensemble des points de suivi, il y en a une vingtaine. Donc c'est des sites côtiers, c'est de la mer ouverte, c'est des ports et c'est quelques lagunes. Donc parmi ces sites qui ont été testés, il y a quatre lagunes, l'étang de la Palme, de Thau, l'étang de Berre et l'étang de Diable. Donc, on a positionné des échantillonneurs passifs. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, c'est ce genre de cage. Voilà, il y a différents types d'échantillonneurs. Ils se présentent sous forme de disques la plupart du temps. Donc, soit c'est des petits disques blancs comme vous voyez ici, soit c'est des disques un peu plus grands, métalliques pour ce qui concerne les pesticides, dans lesquels il va y avoir une phase adsorbante qui est complètement inerte. En fait, c'est des copolymères qui possèdent des grandes capacités d'absorption à des surfaces spécifiques importantes et dont on s'est aperçu qu'ils avaient des capacités d'absorption, des fonctions en fait qui sont présentes dans pas mal de pesticides qui sont importantes. Donc quand ces produits vont se retrouver dans l'eau à proximité de cette phase-là, ils vont venir s'absorber de manière complètement inerte. Il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de mécanisme, on les laisse dans l'eau et c'est le principe qui est intéressant puisqu'on va les laisser ces échantillonneurs plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans les eaux, afin qu'ils accumulent le maximum de produits qui sont présents dans la phase aqueuse. Alors ça va avoir beaucoup de points positifs. Pourquoi ? Parce que du coup, les produits qui sont présents en faible teneur, on va les concentrer directement dans le milieu, et du coup, ça va nous faciliter leur observation ensuite au laboratoire et leur quantification. Un autre avantage, c'est que ça va nous permettre de voir, d'obtenir des concentrations moyennes pondéré, c'est-à-dire des concentrations moyennes pendant la durée de pose d'un échantillonneur. Là où jusqu'à présent, on était limité par le fait qu'on prenait des prélèvements d'eau ponctuels. Et donc, avant notre prélèvement d'eau et après, on ne savait pas ce qui se passait. Si on arrivait après un gros événement, une tempête ou un gros apport, on pouvait complètement le rater. Et c'était souvent le cas en milieu côtier. Là, on va intégrer. Et donc, du coup, même ces gros apports vont pouvoir progressivement marquer les échantillonneurs. Et donc, on aura une idée de ce qui est présent dans la colonne d'eau. Donc, quelques résultats. Donc, là, vous avez l'ensemble des sites. qui ont été échantillonnés en 2008. Donc les temps de Diane, puisque donc l'objectif de la journée, c'est plutôt les systèmes lagunaires. Les temps de Thau ici, les temps de Berre et les temps de La Palme. On a perdu des échantillonneurs. Bon, ils ont été perdus. Donc malheureusement, on n'a pas eu les données. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on observe une multitude de produits, alors déjà pour lesquels on n'avait aucune idée de la présence et des teneurs. Les teneurs observées sont relativement faibles, mais il y a vraiment une présence. Et quand effectivement, ce sont essentiellement des herbicides et un biocide, l'anergarol, mais terbutilazine et tolachlore, essentiellement des herbicides qui sont retrouvés pour l'instant. Vous voyez que les lagunes, comme je vous le disais, qui sont des milieux qui sont plutôt confinés et des milieux qui sont en transition, enfin des milieux qui sont entre le milieu continental et le milieu marin, eh ben elles reçoivent, c'est eux qui reçoivent le plus d'apports, et donc ils sont soumis au maximum d'apports. Donc ça nous a forcément donné l'idée. Alors bien sûr, les teneurs retrouvées sont inférieures aux normes de qualité environnementale qui sont définies pour quelques-uns de ces produits, hein, pas tous malheureusement, et notamment le diuron ici ou l'atrazine et la simazine disposent de normes de qualité environnementale. Ce qu'on a montré ici, c'est que les teneurs qu'on a observées, elles sont inférieures. Bon, c'est déjà ça. Par contre, le point important, qui me semble important, c'est que déjà, il y a beaucoup plus de produits phytosanitaires dans les lagunes. Et le deuxième point, c'est qu'ils sont nombreux. Alors là, ça ne vous le montre pas, mais on a refait une deuxième étude en 2010, dont je n'ai pas encore eu la possibilité de vous montrer les résultats. J'espère l'avoir prochainement. Où on s'est attaché à regarder l'ensemble des lagunes. Là, cette fois, on n'a pas fait que 4 lagunes, mais on est allé sur toutes les lagunes de Méditerranée française, notamment les lagunes de PACA, et on a recherché beaucoup plus de produits que lors de cette première étude de base. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'on trouve plus d'une quarantaine de produits phytosanitaires pour l'ensemble des lagunes. C'est vraiment, il n'y a aucune lagune qui n'échappe à cette contamination. En termes de nombre de produits, c'est plus on en recherche, plus on en retrouve en fait. Et parfois, à des niveaux qui sont élevés. Pas toujours. La plupart du temps, c'est des niveaux traces. Hein. Je ne veux pas faire non plus l'avocat du diable. Mais alors, ça pose d'autres questions hein, qui orienteront nos recherches dans la dizaine d'années qui arrivent. C'est connaître les effets de ces cocktails de produits qui sont à l'état de traces, hein, qui, séparément, une molécule prise lorsqu'on teste son effet n'a aucun effet à la concentration qu'on observe. Mais lorsqu'on rajoute 2, 10, 20, 40 molécules ensemble, même à l'état de trace, on peut quand même raisonnablement se poser la question de leur impact sur le milieu.
On ne voit pas apparaître le glyphosate, c'est qu'il n'est pas recherché ou il n'est pas encore...
Il n'était pas recherché. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que la technique, le glyphosate, c'est vraiment un produit très particulier, qui est très soluble, et il ne s'absorbe vraiment pas bien sur ces échantillonneurs-là. Ces échantillonneurs-là, eh ben, y a encore du développement à faire pour arriver à capter cette molécule qui est la plus utilisée, on l'a vu dans les modèles, la plus, sans doute la plus présente dans les milieux côtiers et même dans les eaux de surface. On est d'accord.
Oui. Qui détermine la concentration sur la qualité environnementale pour pas dépasser au titre.
La norme de qualité.
La norme de qualité.
C'est au niveau européen que ça se fait.
D'accord.
Hein? Donc en fait.
Est-ce élevé cette norme de qualité ou pour vous elle est trop élevée?
Pour moi, elles sont souvent élevées parce qu'elles elles sont élevées. Elles sont élevées, mais on ne peut pas les critiquer parce qu'en fait, elles prennent en compte l'état actuel des connaissances en termes d'écotoxicologie. Donc ça demande en fait de pousser nos recherches au niveau écotox pour préciser ces normes de qualité environnementale. Mais elles prennent en compte les avancées les plus récentes. Mais cela dit, je pense que ces avancées les plus récentes ne sont pas en phase avec les attentes qu'on a aujourd'hui. Hein? On va essayer de conclure, donc je vais aller assez rapidement. Donc il y a deux types d'effets qu'on peut observer sur... donc je vous ai montré, alors très partiellement c'est vrai, mais qu'en fait on retrouvait de nombreux produits dans les écosystèmes lagunaires, de nombreux pesticides, et on peut se poser raisonnablement la question de quels effets ils vont avoir sur les écosystèmes, que ce soit des effets directs, alors que ça va être la mortalité de telle ou telle famille, élément en fait, hein, échelon trophique, ou indirect, sur des consommateurs, des organismes d'échelon trophique supérieur, voire le consommateur final qui est l'homme. Donc là, avec des effets, alors indirect ça peut aller très loin, hein, jusqu'à des effets cancérigènes, tératogènes, stromimétiques, des choses comme ça, perturbations endocriniennes. Donc deux types d'effets, et je m'arrêterai là. Le premier, très simple, un effet direct sur une population très importante de phytoplancton, de micro-algues, qui sont des diatomées qui sont présentes, sont des espèces fourrages, hein, qui servent vraiment de nourriture à tout un tas de coquillages. Donc on s'aperçoit qu'à gauche, vous avez l'exposition au diurant de cette espèce phytoplanctonique sur plusieurs jours. Donc vous avez le témoin qui est ici en bleu, et plus on augmente la concentration, plus on va vers du rouge, et plus vous voyez que cette espèce, elle a tendance à décroître en termes de population. Donc en fait, on inhibe sa croissance. Bon, alors c'est plus. Donc là, vous avez un autre produit phytosanitaire sur la même espèce, donc qui ne réagit pas tout à fait de la même façon. Ce sont des herbicides, hein, bien sûr, hein, j'ai oublié de vous dire. Donc simplement pour vous montrer qu'il y a une diversité de produits qui ont des effets différents, et il y a une diversité d'espèces qui ont des sensibilités différentes. Et pour croiser tout ça, ça rend extrêmement complexe les études écotoxicologiques, et c'est pour ça qu'il y a du retard d'ailleurs à ce niveau. Autre effet possible sur une étude là qui date de 2005 sur l'étendue Vacarès, donc une étude qui a été réalisée par des collègues Hélène Roche de l'université de Paris 6 sur la chaîne trophique dans l'étang du Vacarès. Donc ils ont caractérisé l'ensemble de la chaîne trophique de l'étang. Je vais passer assez vite, hein, ça va des copépodes, hein, des producteurs primaires, donc des herbivores jusqu'à l'anguille en fait, hein, le dernier échelon de la chaîne. Et ils ont regardé les niveaux de concentration en tout un tas de produits phytosanitaires interdits, notamment, dans chacun de ces échelons trophiques qui sont classés. Alors attendez, du premier échelon trophique, hein, donc là ce sont les brouteurs, les herbivores entre guillemets, organismes déposivores herbivores, vers le dernier échelon trophique ici. On s'aperçoit, on a tendance à voir, lorsqu'on somme l'ensemble des produits, une certaine bioamplification. Alors c'est clair qu'il y a une bioconcentration dans chacun de ces organismes. On va le voir ici. Donc il y a des maillons trophiques, là vous avez les différents maillons trophiques en fonction de chacun des produits. Il y a des maillons trophiques qui, en fonction de leur position dans la lagune ou de leur sensibilité, vont être impactés beaucoup plus que d'autres maillons trophiques, d'autres organismes. Donc il y a bien de la bioconcentration même pour des produits phytosanitaires utilisés dernièrement, qui sont dits peu bioaccumulables. Et pour certains, il y a de la bioaccumulation, bioamplification, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que d'un échelon trophique à l'autre, on va voir les concentrations dans les organismes augmenter en plus. D'accord ? Donc ce n'est pas toujours le cas. On voit qu'il y a des cinétiques qui sont très complexes à décrire, mais en tout cas, il y a un impact clair. Pour terminer, je parlerai de l'anguille, parce que c'est quand même un organisme qui est très important, où on voit qu'on a une signature clair de la pollution par les produits phytosanitaires dans l'anguille. Là, vous avez tous les produits. Alors, les produits en rouge, c'était les produits interdits depuis plus d'une dizaine d'années dans l'anguille. Les produits en vert étaient théoriquement pas interdits au moment de la publication de l'étude, mais la plupart sont interdits depuis, hein. Mais on les retrouvait parfois à des concentrations importantes, comme le montre ici cette barre, qui est la barre du diuron, hein, donc un produit encore présent. Donc nos anguilles sont polluées aussi par ces produits phytosanitaires. Ce ne sont pas les seuls organismes, je vous l'ai montré. Donc il faut réagir. Pourquoi ? Parce que cette même étude est allée un peu plus loin. Elle a essayé de relier la présence des produits phytosanitaires avec des problèmes d'impact sur les organismes. Et donc ils ont montré que, alors si ils avaient trouvé plusieurs types de cancers à différents niveaux, sur une vingtaine de pourcents des anguilles échantillonnées. Ce qui montrait surtout, c'est qu'il y avait des problèmes d'immunodéficience sur ces anguilles qui étaient sans doute liés à la présence cumulée de l'ensemble de ces produits. Donc je vais m'arrêter parce que je vais me faire taper sur les doigts sinon. Mais ces problèmes d'immunodéficience ne vont pas tuer directement effectivement les organismes, mais vont les affaiblir suffisamment pour être ensuite sensibles à d'autres types de problématiques virale ou autre. Voilà, donc on peut faire, et on est là pour faire que les choses changent, et je pense que tout au long de la journée, ça va être l'aspect apport urbain qui va être détaillé pour éviter qu'on en arrive à ce type de pêche là dans les lagunes et en mer côtière. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Merci à vous.
Le temps que Claire et ça s'installe. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Sinon, je renvoie vos questions plutôt juste avant la pause café, parce qu'on est quand même un petit peu pris par le temps. Donc là, on va accueillir au pupitre. C'est Claire qui commence.
Alors, juste avant de commencer, moi je vais revenir sur la définition des produits phyto-pesticides, fossiles, etc. Alors, c'est des termes que vous utilisez, que vous entendez couramment. Il y a souvent des confusions entre les termes. Donc, on a eu une définition, on va dire, un petit peu étymologique. Moi, je vais vous donner la définition réglementaire européenne. Au niveau réglementaire, les pesticides, ça comprend les biocides et les produits phytopharmaceutiques, qui sont deux choses bien différentes. Donc, ce sont des définitions qui ont été clarifiées par une directive européenne de 2009. Donc, les biocides, en gros, c'est tout ce qu'on a dans des usages, notamment ménagers, dans des usages urbains, dans des usages au niveau des locaux. Donc, quand on parle de shampoing anti-poux, quand on parle de traitement antiparasitaire pour les chiens et les chats, quand on parle de désinfection de locaux, quand on parle, par exemple, d'insecticides ménagers utilisés contre les fourmis, les cafards, etc., on est dans des usages biocides, avec une réglementation européenne qui est la réglementation biocide. Quand on parle d'usage, je vais caricaturer, hein, mais sur des végétaux, on est sur des usages produits phytopharmaceutiques. C'est le terme consacré, hein, c'est le terme officiel. Donc ça, c'est les usages en fait sur végétaux, que ce soit sur des végétaux cultivés ou sur des végétaux indésirables, c'est-à-dire sur du désherbage. Donc on a là une réglementation spécifique, produits phytopharmaceutiques, qui est différente de la réglementation biocide, et c'est celle qui est l'objet du plan Ecophyto 2018, dont on va vous parler après. Alors le terme de pesticide, il est souvent utilisé de façon globale pour désigner des produits phytopharmaceutiques ou pour désigner l'ensemble de tous ces produits, parce qu'en général, c'est le terme que connaît le grand public. Donc c'est le terme qui est le plus fréquemment utilisé, pesticide, de façon globale. Voilà. Mais on a bien, du point de vue réglementaire, deux définitions différentes, même si, globalement, les molécules utilisées peuvent être les mêmes dans les différents produits. On peut avoir exactement les mêmes molécules, notamment au niveau insecticide, dans un biocide ou dans un produit phytopharmaceutique. Et c'est aussi tout le problème de tracer les origines de ces différents produits, dans la mesure où on peut avoir exactement les mêmes molécules ou des isomères de molécules identiques. Autre petit point par rapport aux molécules actuellement autorisées. Donc moi, je ne vous parle pas de biocides, parce que ça, c'est un domaine que je connais un peu moins. Mais en termes de produits phytopharmaceutiques, on avait dans les années jusqu'en 2003, on avait à peu près un peu plus entre 900 et 1000, on va dire, substances actives autorisées. Je ne parle pas en produits commerciaux, parce que là, les listes, elles sont longues comme le bras. Hein, mais en termes de substances actives, c'est-à-dire de produits de base contenus dans le produit que vous pouvez acheter, on était entre 900 et 1000 substances actives. On est actuellement à 400. Il y a eu un gros ménage fait au niveau européen sur les substances actives autorisées. Et autre précision que je voulais apporter aussi, ce n'est pas parce que la substance est d'origine bactérienne, c'est-à-dire naturelle, qu'elle est inoffensive. Et notamment le BT, c'est-à-dire ce qui est utilisé en démoustication, c'est un produit phytopharmaceutique et c'est un biocide. C'est pas parce que c'est un produit naturel que ce n'est pas un biocide ou que ce n'est pas un produit phytopharmaceutique. Un produit phytopharmaceutique, qu'il soit d'origine de synthèse ou d'origine naturelle, peut avoir un impact non négligeable à la fois sur la santé de l'utilisateur et à la fois sur l'environnement de façon très générale. Et notamment les produits utilisés en agriculture biologique. On croit que l'agriculture bio, c'est l'agriculture qui est non traitée. Un des produits qui était utilisé encore récemment, qui s'appelle la rotenone, c'était un produit classé T, c'est-à-dire toxique pour l'utilisateur. C'est un produit qui est interdit depuis, enfin une substance active qui est interdite depuis à peu près 2 ans. Voilà. Donc c'était juste un point pour vous dire attention, une substance d'origine naturelle, c'est pas forcément une substance anodine, et ça peut être aussi un biocide, ça peut être aussi un produit phytopharmaceutique. C'est pas parce que c'est un BT que c'est gentil, voilà, pour caricaturer. Hein. Voilà. Donc je laisse la parole à Claire et puis on va se passer la parole au cours de l'interview.
Donc bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Claire Lafon, donc je travaille à la FRODANPACA qui est la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles. Donc on a une vocation de mission déléguée par l'État sur des thématiques comme la charca sur les prunus ou la favescence dorée sur la vigne. Donc voilà, à la base on était sur ça et on développe un pôle environnement, notamment avec mon collègue Benoît Dupuis qui vous présentera cet après-midi la gestion différenciée et les plantes d'herbage. Donc là, je vais vous montrer les deux arrêtés principaux concernant l'utilisation des produits phytosanitaires et qui vous concernent directement, vous, en tant que collectivité, à partir du moment où vos agents utilisent des produits phytosanitaires. Donc tout d'abord, les espaces verts, ils ont une importance voilà, au niveau urbain, ils ont des fonctions récréatives et utilitaires, ils ont notamment une fonction biologique contre les nuisances, ils ont une fonction importante sur l'équilibre physique et biologique de l'homme. On aime avoir des espaces verts dans nos villes, on considère que c'est une partie de bien-être et de détente. Ça a aussi une fonction d'échange et de rencontre sociale, et aussi une fonction esthétique. Donc je ne vais pas détailler trop là-dessus, on en a déjà parlé. France, important consommateur, 10% en ZNA, donc c'est une part qui paraît négligeable, mais voilà, on est de l'ordre à 10 à 40% par rapport au transfert, par rapport à une parcelle agricole où le transfert, s'il y a une pluie derrière un traitement, est plus de l'ordre de 1 à 3%. Voilà, donc les principaux utilisateurs, les collectivités, vous faites partie des principaux utilisateurs en zone non agricole. Donc les produits phytosanitaires, on les retrouve dans tous les compartiments de l'environnement. Ils impactent au niveau de la qualité des eaux, que ce soit souterraine ou superficielle. Ils impactent aussi au niveau de la biodiversité et aussi au niveau de la qualité de nos sols. De plus, au niveau de la population, il y a un risque du coup sanitaire, notamment au travers d'intoxications aiguës ou encore, celle moins bien connue, ils peuvent entraîner des maladies chroniques si on l'utilise pendant de nombreuses années. Donc pourquoi il y a un enjeu au niveau du désherbage en milieu urbain ? Eh bien, c'est parce qu'on est sur des surfaces imperméables. Donc du coup, le transfert est beaucoup plus important, notamment par les avaloirs. Ça va directement dans les réseaux d'eau pluviale et directement dans la ressource en eau. Donc voilà, on est sur des surfaces imperméables. Et donc, il est nécessaire de faire évoluer les pratiques de désherbage parce que voilà, il y a un risque important, très très important. Donc au niveau de la responsabilité lors d'emploi des produits phytosanitaires, si vous faites appel à un prestataire, il faut savoir qu'au niveau du plan éco-phyto qu'on va vous présenter Alice tout à l'heure, voilà, il va y avoir des obligations, notamment au niveau de l'agrément de ces entreprises. Elles vont devoir faire une démarche d'agrément et tout son personnel doit être certifié, habilité à utiliser des produits phytosanitaires. Voilà, au niveau réglementaire, il y a obligation que ces personnes soient formées. Mais dans le cas d'un entretien en régie, c'est-à-dire vous en collectivité, vos agents, ils vont aussi devoir tous être formés à partir du moment où il y a application de produits phytosanitaires. Donc ça, je vous le présenterai tout à l'heure. Voilà, il y a un choix des produits, respecter les usages. Il y a toute une réglementation concernant le stockage, la protection de l'environnement, avec la zone non traitée, les délais de rentrée que je vais vous présenter, et un arrêté qui vient de sortir, qui date de juin de 2011, et qui interdit de traiter dans les lieux fréquentés par le grand public. Donc ça concerne directement les collectivités. Voilà, où il y a un certain nombre de produits qui sont interdits sur certains lieux. Voilà, donc protection et formation des agents applicateurs, on va le voir avec le certifito, et aussi toute une réglementation à respecter concernant l'élimination et le traitement des déchets. Donc là, c'est un schéma qui reprend les effets toxiques pour la santé humaine. Donc voilà, l'utilisation de produits phytosanitaires, ça peut entraîner une toxicité aiguë. Donc là, on parle de toxicité ponctuelle, au cas où il y a une contamination par les produits phytosanitaires lorsqu'ils sont utilisés, mais aussi, moins bien connue, une toxicité chronique. Donc là, Benoît, si tu veux faire passer, s'il te plaît, la case, j'ai mis juste à côté. Là, je vous ai amené quelques équipements de protection individuelle qui sont le dernier recours quand on utilise des produits phytosanitaires pour vous montrer à quoi doit ressembler un agent normalement quand il utilise un produit phytosanitaire. Donc voilà, ça n'encourage pas forcément. Moi, en commune, je connais des agents qui traitent tôt le matin ou tard le soir pour pas que voilà, les mamans, en sortant de l'école, elles voient qu'ils traitent parce que tout de suite, voilà, c'est pas très rassurant. Donc je vous ai amené quelques exemples d'échantillons, vous pouvez sortir un là.
Vous pouvez vous déguiser.
Voilà. Oui, c'est ça, c'est pas pertinent. Allez-y, sortez là, je vais vous montrer.
Mais c'est une obligation par rapport au droit du travail. C'est-à-dire qu'en tant qu'employeur, c'est une obligation de fournir aux salariés qui effectuent les traitements, qui manipulent les produits, tous ces équipements-là, c'est une obligation de les entretenir et de les former aussi à leur utilisation. Donc c'est un non-respect du droit du travail si jamais vous ne fournissez pas et si vous n'entretenez pas ces équipements pour les salariés en tant qu'employeur.
Voilà, donc le salarié doit avoir des bottes, une combinaison, des gants adaptés, donc tout ça avec des normes européennes à respecter, et des casques avec des cartouches spécifiques.
On fait passer ?
Oui, allez-y, faites passer. C'était pour que vous touchiez un peu, vous ayez de matière.
Donc combinaison, casque.
Parce qu'on fait passer en formation certifiée.
Donc ces gants-là, plus ceux-là.
Soit l'un, soit l'autre.
Ah, ils sont l'un ou l'autre.
Voilà, mais quand on tresse, c'est les gants les plus épais, en ici.
C'est pas du gant de ménage, c'est du gant spécifique pour les...
C'est pas le gant pour faire la vaisselle, attention. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement l'arrêté du 12 septembre 2006, qui parle, voilà, à partir du moment où on utilise un produit phytosanitaire, il y a certaines règles à respecter. Donc passez-les si vous voulez, c'est important. Donc c'est un arrêté qui à la base était, voilà, quand on le lit, il a été créé, enfin mis en place par rapport à l'usage agricole, mais il est tout à fait applicable à partir du moment où vous utilisez des produits phytosanitaires. Donc voilà, il y a les conditions météo à respecter, la zone non traitée, les délais de rentrée et la gestion des effluents phytosanitaires. Donc il faut tenir compte de la météo quand on traite, ne pas traiter en cas de pluie, bien sûr, pour éviter les ruissellements, éviter de traiter à des températures supérieures à 25 degrés, sinon on a un risque de volatilisation très fort. Et par contre, au niveau réglementaire, il est interdit de traiter en cas de vent violent. Alors attention, parce que vent violent, c'est 19 km/h dans la réglementation, donc c'est pas du vent violent, 19 km/h. Mais voilà, normalement, à partir de 19 km/h, vous n'avez pas le droit d'utiliser, de traiter avec des produits phytosanitaires. Voilà, je vous ai mis, c'est l'échelle 3, c'est le degré 3 à l'échelle de Beaufort. Donc il détermine qu'en observation sur le terrain, ça donnerait les petits drapeaux légers se déploient, les feuilles et les rameaux sont sans cesse agités. Voilà, c'est très parlant et ça... C'est très facile à estimer. Non mais voilà, il faut savoir qu'au niveau réglementaire, au niveau des conditions météo, c'est le vent qui est réglementé. Et on est dans des régions pas avancées, le Mistral, on ne sait pas. Cet arrêté définit aussi, il demande une attention particulière par rapport à ça, c'est la zone non traitée. Donc là, c'est le but, c'est de protéger nos cours d'eau. Donc on a vu qu'il y avait un impact fort sur les milieux aquatiques. Donc la zone non traitée, c'est la zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau, correspondant pour les cours d'eau en dehors des périodes de crue à la limite de leur limiteur. Donc interdit d'utiliser des produits phytosanitaires, quels qu'ils soient, sur cette zone. Sachant qu'on appelle par point d'eau tous les traits continus et discontinus qu'on peut voir sur une carte à l'échelle des 1,25 millième. Donc ça représente quand même beaucoup de choses. Donc cette ZNT, elle est de minimum 5 mètres. C'est une information que vous trouvez sur l'étiquette du produit. Si jamais il n'y a pas de ZNT indiquée, c'est minimum 5 mètres. Mais elle peut aller pour certains produits jusqu'à 100 mètres. Donc là, on a quelques photos d'exemples de choses qu'il ne faut absolument pas faire. Et qu'on voit encore beaucoup, malheureusement. L'arrêté définit aussi ce qu'on appelle le délai de rentrée. Donc c'est la durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer sur ou dans les lieux où a été appliqué un produit. Donc ça, c'est l'arrêté de 2006 qui le définit aussi, et c'est une indication qui est sur l'étiquette du produit. Donc là, je vous ai mis délai de rentrée. Donc on est à 6 heures minimum lorsqu'on traite en extérieur. Ça, c'est le délai d'entrée minimum qu'on trouve sur les produits professionnels. On augmente à 8 heures quand il s'agit de produits qu'on va appliquer à l'intérieur. Donc là, c'est l'exemple de serre. Mais bon, là, en milieu agricole, c'est plus adapté. Mais il y a certains produits, avec c'est le nombre de phrases de risque. À partir du moment où ces phrases de risque apparaissent sur l'étiquette du produit, voilà, vous avez un délai de rentrée qui correspond à 24 heures minimum. C'est-à-dire que personne ne doit rentrer sur la zone traitée pendant au moins 24 heures.
Il y a quelques produits espace vert qui, depuis quelques mois, on va dire, ont un délai de rentrée qui correspond au temps de séchage, c'est-à-dire un délai très très court. Et c'est encore une toute petite minorité de produits. Il doit y avoir 3-4 produits commerciaux. Sinon, le minimum, c'est 6 heures.
Voilà. Et après, il y a aussi un délai de rentrée qui peut aller jusqu'à 48 heures à partir du moment où, sur l'étiquette, vous avez les phrases R42 ou R43. Donc, voilà. Sachant que les firmes ont aussi appuyé sur le fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait plus de 2 jours de délai de rentrée, parce que sinon, bien sûr, les produits seraient plus difficiles à vendre. Enfin, ça
ne concerne pas les routes, là. Ça ne concerne pas les voiries, le délai de rentrée.
Tous les espaces, agricoles et non agricoles.
Fermer les rues.
Il faudrait, en théorie. Fermer les rues dans le cas des applications pour les arbres d'alignement.
Si c'est des produits avec ces phrases de risque, là.
D'accord. Ouais.
Donc là, juste pour préciser, les produits qui sont sans délai de rentrée, donc c'est les produits qui sont non soumis à homologation, Et les produits qui portent la mention EAJ, donc on peut trouver en jardinerie ou en supermarché pour le grand public. Donc au niveau des emballages vides de produits phytosanitaires, ben voilà, il y a tout aussi une réglementation. On ne peut pas faire n'importe quoi de nos produits, de nos bidons de produits une fois qu'ils sont vidés. Donc on ne peut pas les jeter aux ordures ménagères. On ne peut pas les mettre en décharge sauvage et il est interdit de les brûler à l'air libre. Voilà.
Petit complément, toute combustion, tout brûlage de déchets à l'air libre est désormais totalement interdit. Il y a une loi, y compris les déchets verts, je le précise parce que c'est une pratique extrêmement courante.
Oui.
C'est totalement interdit, quel que soit le déchet désormais. C'était dans les règlements sanitaires départementaux depuis très longtemps, personne ne le respectait, ça a été réécrit dans une loi nationale récente. Donc tout brûlage de déchets à l'air libre est totalement interdit. En tant que particulier ou en tant que professionnel, ça concerne absolument tout le monde. Les brûlages de déchets, je pourrais vous faire passer des chiffres si vous souhaitez. Le brûlage de 50 kg de déchets produit plus de particules fines que 3 mois de combustion par une chaudière classique à fioul. 50 kg de déchets.
Quand vous dites que tous les brûlages sont interdits, il me semble que les exploitants agricoles ont le droit de brûler sur pied.
Alors, il y a quelques exceptions, mais les exploitants agricoles n'ont pas le droit non plus. Alors, il y a quelques exceptions qui peuvent être, par exemple, soit pour des cobuages, soit pour de la, comment dire, pour des problèmes sanitaires, en fait, de certaines maladies ou certains ravageurs, sur des cas ponctuels. Donc, c'est plutôt un régime dérogatoire. Et pour tout ce qui est plastique, bidon, etc., c'est totalement interdit aussi, même si ce n'est pas forcément non plus respecté. Hein.
Vous pouvez nous donner la référence.
Je vous l'enverrai, oui. Je vous la fais passer par... je vous fais passer tout ça.
Donc au niveau de la réglementation, voilà, nos emballages vides de produits phytosanitaires, il faudrait les rincer, les percer, afin qu'il n'y ait pas d'utilisation derrière, les stocker dans un local réservé aux emballages vides et les faire éliminer lors de collectes organisées par le distributeur. On peut repérer notamment le logo Adivalor là en noir qui prend en compte le recyclage de ces bidons. Il y a aussi les produits phytosanitaires non utilisables. Donc ça, c'est des produits que vous avez dans vos locaux de stockage et qui sont soit dont la substance active a été retirée du marché ou qui ont subi par exemple un gel. Voilà, c'est des produits qui sont plus utilisables. Donc voilà, périmés, sans étiquette ou qui ne sont plus homologués. Donc là, c'est pareil, il faut se tenir à jour des produits qui sont homologués et voilà, se méfier de bidons qu'on a depuis 15 ans et qu'on utilise très peu. Donc ça, c'est pareil, il faut les stocker dans un local réservé pour une collecte ultérieure. Et voilà, là, on a aussi des collectes qui existent notamment par Adivalor. Donc là, je vais passer très vite, mais il y a aussi tout le problème des gestions des effluents phytosanitaires. Donc par effluent, on entend fond de cuve, fond de pulvérisateur, tout ce qui va être les eaux dues au lavage du pulvérisateur intérieur ou extérieur. Donc voilà, il y a trois possibilités de traitement, soit une gestion intégrale à la parcelle, avec toute une démarche, une procédure spécifique qui est définie au niveau de la réglementation, soit ou par un centre spécialisé, donc ou un traitement homologué par l'État. Il y a différents traitements qui existent, phytobac et autres. Donc il y a aussi le local stockage qui est défini au niveau réglementaire. Est-ce que au niveau de vos communes, vous avez des locaux de stockage, des locaux de stockage en norme?
Oui,
des locaux de stockage. Oui, c'est donc avec. Donc avec des étagères, voilà, qui sont. Enfin, ça peut être fait de toute façon, de façon très simple. Hein, ça peut être une armoire. Il faut juste qu'il y ait au niveau, voilà, la signalétique correspondante. Comme vous voyez, il y a des produits. Elle doit être exclusivement pour les produits phytosanitaires. Bien sûr, on ne met pas les équipements de protection individuelle dedans, pas les gants, etc.
Fermé à clé et ventilé.
Option hors gel, etc. En option. Mais c'est pareil. Donc là, pour finir, je vais vous parler de l'arrêté du 27 juin 2011 qui vous concerne directement, puisqu'il concerne l'interdiction d'utilisation de certains produits dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, avec une obligation d'affichage et une obligation de balisage. Donc ça fait suite à une directive européenne de 2009. Ça concerne les lieux publics fréquentés par le publics, donc voilà, les collectivités espaces publics, mais ça concerne aussi les lieux privés fréquentés par le public. Donc les golfs y sont soumis. Voilà, donc ça concerne. Donc là, je vous ai mis les produits qui sont les seuls produits autorisés dans ces types de lieux. Donc par exemple, cours de récréation, espaces fréquentés par les enfants dans les établissements scolaires, les crèches, les haltes-galeries, les centres de loisirs, les aires de jeu qui sont destinées aux enfants dans les parcs, etc. Et à moins de 50 mètres des bâtiments, accueillant ou hébergeant des personnes vulnérables. Donc les seuls produits qui sont autorisés, c'est les produits qui sont sans classement ou dont la classification comporte exclusivement une ou plusieurs phrases de risque allant de R50 à R59. Donc le but, c'est vraiment de limiter les produits toxiques pour traiter ces lieux et surtout pour limiter tout court l'utilisation des produits phytosanitaires. Deuxième cas, pour là, donc sans parler d'enfants, dans les parcs, jardins et espaces verts, donc voilà, c'est directement les collectivités, ou aussi sur les terrains de sport et de loisirs ouverts au public, donc les golfs dont je parlais tout à l'heure. Voilà, vous avez toute une liste de produits, donc notamment les produits CMR. Est-ce que vous connaissez les produits CMR, ce que c'est ? Les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc ça, il faut savoir qu'en France, il y a une politique d'élimination de ces produits au niveau du marché, parce que c'est vraiment des produits reconnus comme très toxiques. Donc voilà, ces produits sont bien sûr interdits sur ces espaces, et les produits avec aussi des classifications pardon, particulières qui sont notées ici. Donc voilà, sauf dans ce cas, pour la deuxième catégorie, les produits classés explosifs, très toxiques et toxiques, il peut y avoir une exception à partir du moment où l'accès au lieu peut être interdit au public pendant une durée minimum de 12 heures. Donc vous vous rappelez, je vous ai parlé des délais de rentrée tout à l'heure, là on complexifie un peu plus, je vous ai donné une échelle. Donc voilà, en fait, on rajoute ce qu'on appellerait un délai de rentrée, mais qui, dans le cadre de cet arrêté, s'appelle le délai d'éviction, tout simplement, et qui dit qu'en fait, voilà, rentrée autorisée 12 heures après l'application pour les produits utilisés dans les lieux publics et ayant initialement un délai de rentrée inférieur à 12 heures. Donc si le produit, sur son étiquette, c'est marqué 24 heures, vous respectez 24 heures, mais si à la base, c'était 6 heures et que vous l'utilisez dans les produits publics, alors il faut monter le délai de rentrée à 12 heures. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est pas fait pour rendre les choses simples. Donc voilà, vous avez une obligation de balisage et affichage au moins 24 heures avant l'application. Donc ça, c'est défini au niveau réglementaire. Et donc, vous devez baliser la zone de traitement et du coup, mettre en place un délai d'éviction si besoin. Dans le cas d'une lutte obligatoire, les interdictions ne s'appliquent pas, mais le balisage et l'affichage restent obligatoires. Donc là, je vous ai montré un exemple de panneau pour indiquer qu'un traitement va être appliqué dans un lieu public. Oui, c'est Bayer. J'ai pas d'action chez eux, mais c'est bon. Donc l'interdiction, enfin cet arrêté, il augmente les restrictions de l'arrêté de 2006, bien sûr. Donc il faut respecter le délai le plus long sans suivre obligatoirement le texte le plus récent. Mais voilà, ne sont pas concernées les routes, autoroutes, rues pour cet arrêté-là.
Sauf si vous avez, par exemple, des pieds d'arbres, ce qui peut être assimilé à un espace vert, notamment les arbres d'alignement. Quand on ne traite pas le trottoir, mais les arbres, par exemple, là vous êtes concerné. Oui. Donc vous traitez le trottoir, vous n'êtes pas dans ce cadre-là, en termes de traitement herbicide, voilà. Vous traitez les arbres, vous êtes dans ce cadre-là. Voilà, il faut vous référer en fait à la classification de l'AITF, hein, de la classification des espaces verts de l'AITF.
Donc là, c'était juste un diagramme, un schéma pour vous montrer comme c'est compliqué, dans quel cas vous pouvez utiliser ou non certains produits. Bon, voilà, c'était juste pour vous donner.
Donc en gros, plus c'est vers la droite, et plus c'est des produits toxiques, et plus les restrictions sont importantes. Plus vous êtes vers la gauche, et plus vous êtes sur des produits moins toxiques, en fait, moins vous êtes sur des produits toxiques, et plus vous avez d'autorisation, sachant que dans tous les cas, c'est toujours obligation d'affichage et de balisage, quel que soit l'espace. Même si vous utilisez un produit non classé, vous avez quand même l'obligation de balisage et d'affichage.
Donc pour conclure, l'utilisation des produits phytosanitaires en zone non agricole a un impact sur l'environnement, ça c'est clairement évident, et un impact aussi sur notre santé. La réglementation concernant cet usage est de plus en plus restrictive et implique de nombreuses contraintes, notamment pour les collectivités, avec l'arrêté de 2011 évidemment. Et donc il paraît indispensable de s'engager dans une réduction de leur utilisation. Et voilà, tout à l'heure, cet après-midi ou ce matin, je ne sais plus, on vous montrera un film qui résume les méthodes alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires qui existent.
Merci beaucoup.
Voilà. Juste pour compléter là-dessus, la semaine dernière, on était tous à une journée d'échange au parc du Luberon, qui a entamé cette démarche il y a plusieurs années déjà, et qui a fait un gros audit d'une quarantaine de communes sur les pratiques en matière de pesticides. Et j'ai relevé qu'en fait, plus des trois quarts des communes consultées, donc il y avait, je crois, 48 communes consultées, il y avait donc une réglementation non respectée pour le stockage de produits, pour le site de remplissage des produits, la gestion du fond de cuve, les équipements, la formation des agents et le respect du délai de rentrée. Donc en fait, tout ce qu'on a vu là, globalement, les trois quarts des communes ne respectaient pas la réglementation. Et donc il y a un vrai enjeu de réduire l'utilisation de pesticides, voire de la supprimer, parce que finalement, si c'est radical et efficace, la réglementation est tellement contraignante en matière de tous ces postes-là que finalement le coût et le risque associé à l'utilisation de pesticides est très important.
En fait, le coût réel de l'utilisation de pesticides, il faudrait intégrer les effets sur le milieu, les effets sur la santé. Exactement. Il faudrait intégrer aussi les coûts que vous n'avez pas forcément si vous ne respectez pas la réglementation, c'est-à-dire le coût des EPI et de leur élimination, le coût de la gestion des déchets de traitement, c'est-à-dire les bidons vides, les éventuels fonds de bidons restants et le coût de la gestion des effluents et le coût de tout, éventuellement l'aménagement du local phyto si vous ne l'avez pas, la mise aux normes du pulvérisateur. Donc il y a énormément de coûts cachés. Quand on ne respecte pas la réglementation, bah, bien entendu, on ne s'en rend pas compte. Et on ne se rend pas compte non plus de l'impact sur le milieu et de l'impact sur la santé. Donc quand on fait le calcul, au final, les méthodes alternatives n'ont pas forcément, ne sont pas forcément dans le rouge. Si on prenait vraiment tout en compte, les méthodes alternatives seraient beaucoup plus avantageuses. Il y a aussi l'aspect impact sur la santé de vos agents, le problème de respect de la réglementation du droit du travail. Donc tout ça, c'est des choses aussi pour lesquelles les communes sont verbalisables en cas de contrôle. Alors, mes services ne font pas de contrôle sur le droit du travail. Par contre, vous avez d'autres services de l'État qui le font. Et par contre, mes services font des contrôles et vont en faire de plus en plus sur l'utilisation de produits phyto par les collectivités, c'est-à-dire notamment le local de stockage et le respect des obligations réglementaires qu'on a vues précédemment, donc les délais de rentrée, etc., et les zones non traitées. Et l'ONEMA fait également des contrôles sur les zones non traitées et peut en faire, y compris pour les collectivités. Donc vous êtes verbalisable à tout un tas de titres différents en fonction des réglementations concernées. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'il vaut mieux, dans la mesure du possible, partir sur des techniques alternatives. Alors moi, je vais vous présenter le cadre un peu national, le cadre éco-phyto. Donc le plan éco-phyto, alors on parle plus de 2018, il y a eu un nouveau ministre, donc chaque ministre imprime un petit peu sa marque sur les plans et sur les réglementations. Donc on parle plus d'éco-phyto 2018. Éco-phyto 2018, l'objectif c'était de réduire de 50% globalement tous les usages de produits phyto en 10 ans, donc sur la période 2008-2018. Maintenant, on parle de réduire et améliorer l'utilisation des phytos, qui est vraiment l'objectif qui a été toujours et qui a toujours été le nôtre depuis le début. Et les objectifs vont être chiffrés par bassin de production et par filière. Donc ça, c'est en cours. On ne parle plus de 50% globalement. On va parler maintenant d'objectifs plus locaux qui vont concerner un peu plus et responsabiliser un petit peu plus tous les acteurs. L'objectif, c'est toujours de réduire et d'améliorer l'utilisation des phytos. En agriculture, ça va rentrer dans un plan un peu plus large qui s'appelle « Produisons autrement », donc avec un objectif vraiment de transformer les filières de production. Donc ça ne concerne pas directement, par contre, les zones non agricoles. Alors, d'où est-ce que ça vient? Donc il y a l'aspect sécurisation, hein, dont on a déjà pas mal parlé. Alors, c'est un plan qui est porté par le ministère de l'Agriculture et porté par le ministère de l'Écologie, qui vient de plusieurs choses. D'une part, du Grenelle de l'environnement, donc notamment l'engagement 129, qui était celui de réduire, d'éliminer un certain nombre de produits parmi les plus toxiques qui étaient utilisés au titre de produits phytopharmaceutiques. Et ça vient aussi d'une directive de 2009, une directive européenne, qui impose à tous les États membres de mettre en place un plan d'action pour réduire l'utilisation des pesticides sur leur territoire national. Avec plusieurs objectifs, c'était de réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides pour la santé humaine et l'environnement, sachant que là, quand on parle de pesticides, c'était bien produits phytopharmaceutiques, hein, puisque c'était la directive utilisation durable, mais ça ne concernait pas du tout les biocides. Donc c'était le terme pesticide utilisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de façon générique. C'était également objectif encourager l'élaboration, l'introduction de la lutte intégrée de techniques de substitution donc aux produits phytosanitaires chimiques. Et l'objectif global, c'était de réduire la dépendance vis-à-vis des pesticides, et notamment la dépendance de l'agriculture. Alors, je vais vous balayer très très rapidement le plan éco-phyto. Axe 1, donc 9 axes au total. L'axe 1, c'est un axe d'évaluation par des indicateurs. Donc, pour savoir d'où on va et si on a progressé, bien sûr, il faut évaluer. L'axe 2, il concerne essentiellement l'agriculture. Il s'agit de recenser et généraliser les systèmes agricoles et les moyens connus permettant de réduire l'utilisation de pesticides. Donc, en gros, c'est de diffuser les choses qui marchent déjà, dont on a connaissance qu'elles marchent. Donc, une des actions phares de cet axe-là, c'est le réseau de fermes Défi Ecophyto. Donc, ce sont des fermes pilotes, des réseaux de fermes pilotes qui sont mis en place un petit peu dans toutes les régions de France sur différentes filières. Donc, on en a 15 sur la région PACA. Alors, je ne connais pas le nombre en Languedoc-Roussillon, mais je sais qu'on en a 15 réseaux en PACA sur toutes les filières de production et qui sont des vitrines techniques, en fait, pour essayer de diffuser ces techniques existantes auprès du plus grand nombre d'agriculteurs. L'axe 3, c'est un axe de recherche. On sait que toutes les techniques nécessaires, on ne les a pas encore. On a des impasses techniques, on a certains ravageurs, certains nuisibles, pour lesquels on n'a pas autre chose que des produits chimiques. Donc il faut innover, il faut faire la place à d'autres techniques et les mettre au point. Donc c'est un axe recherche-expérimentation. Donc là, pour l'instant, vous n'êtes pas tellement concernés. L'axe 4, par contre, vous concerne. C'est la formation à la réduction donc de l'usage des produits phyto et la sécurisation de l'utilisation des pesticides. Donc cet aspect formation et sécurisation concerne l'ensemble de la filière produits phytopharmaceutiques, de l'acheteur au distributeur en passant par le conseiller. Donc en tant que collectivité, tous les agents qui sont ordonnateurs de traitement et tous les agents qui sont opérateurs de traitement vont être concernés par cet aspect formation. Donc c'est ce qu'on appelle le certiphyto, certificat professionnel pour toutes les personnes qui sont en lien avec les produits phyto. Donc ça concerne aussi les personnes qui vous vendent les produits ou les personnes qui sont susceptibles de vous conseiller. Donc il y a plusieurs mentions dans le certiphyto. C'est déjà en place à titre expérimental depuis 2010, à titre pérenne depuis 2012 et les formations normalement pour les agents des collectivités vont commencer début 2013. Je te laisse la parole tout de suite, on le voit après. On voit après. Donc Claire va vous faire un petit point sur le certiphyto. Autre chose, donc là, vous a déjà parlé, c'est l'agrément d'entreprise. Donc l'agrément d'entreprise, ça existait déjà, mais c'est renforcé par les textes récents. Donc pour tous les applicateurs prestataires et tous les distributeurs, y compris pour de produits grand public, parce que maintenant, jusqu'à présent, c'était uniquement pour les produits professionnels, c'est-à-dire pour les produits classés. Maintenant, y compris les jardineries doivent avoir un agrément, en fait, pour vendre des produits phytopharmaceutiques. Sachant que l'agrément d'entreprise comprend une démarche de type qualité, avec un organisme certificateur. Donc ça augmente un petit peu les contraintes par rapport à ce qui existait auparavant. Un petit point intéressant aussi, les auto-entrepreneurs n'ont absolument pas le droit de proposer leurs services en tant que prestataire jardin espace vert. Donc si vous avez des auto-entrepreneurs qui vous proposent des prestations, que ce soit sur de l'élagage, de l'entretien, de la tonte par exemple, ou sur des applications de produits phyto, ils sont hors la loi. Donc une entreprise qui vous propose ses services doit avoir absolument un agrément. Les auto-entrepreneurs ne peuvent pas y prétendre. Donc je vous le dis parce que je sais que certains, on m'a rapporté que certaines communes faisaient appel à des auto-entrepreneurs sans forcément savoir qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Voilà.
Concernant l'application de produits phytosanitaires.
Non. Tout ce qui est jardin espace vert, ça ne fait pas partie du champ autorisé pour les auto-entrepreneurs. Ça, c'est différent. Je parle bien des auto-entrepreneurs. C'est un régime particulier.
Les personnes qui travaillent dans les ISAT
oui.
vont certainement pas être formées.
Je pense qu'ils auront comme. Si, il y aura au moins pour les formateurs.
Oui,
il y aura un encadrement, donc je pense que ce ne sera pas concerné. Mmh. Voilà. Je parle bien des auto-entrepreneurs, hein, c'est-à-dire des personnes qui s'installent avec un régime un petit peu allégé par rapport à la réglementation classique. Et donc, c'est très clair, ils n'ont pas le droit de travailler en jardin espace vert.
Même s'ils sortent d'un lycée agricole.
Tout à fait. C'est deux choses différentes. Il y a l'agrément d'entreprise et le certiphyto. Le certiphyto, quelqu'un qui sort d'un lycée agricole avec une formation de moins de 5 ans, avec un certain niveau de formation, il a le certiphyto de façon automatique. C'est l'obtention par la voie en fait, de la formation initiale. Par contre, il faut un agrément d'entreprise pour proposer de l'application de produits phyto. En prestation de service. Pardon. Alors, autre axe qui vous concerne un petit peu, mais qui concerne surtout l'agriculture, c'est tout ce qui est le réseau de surveillance des bioagresseurs et des effets indésirables de l'utilisation des pesticides. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épidémiosurveillance végétale. Donc, au niveau de la région PACA, on a ce qu'on appelle 10 bulletins de santé du végétal. Donc, l'idée, c'est qu'on met en place des réseaux de parcelles avec des observateurs et on essaie de tirer de ce réseau de parcelles un état sanitaire des différentes cultures pour savoir si on a une alerte ou pas, si les seuils d'alerte sont dépassés ou non, pour éventuellement déclencher des traitements, sachant que dans ces BSV, on n'a aucune préconisation de traitement. C'est uniquement un état sanitaire des végétaux. Donc ça vous concerne pour deux bulletins que je vous montrerai après, qui sont des bulletins, alors je vous les montrerai tout de suite, donc un bulletin zone non agricole et pépinière ornementale, et un bulletin production horticole, pour ceux éventuellement qui auraient des serres, ça peut aussi vous concerner. Donc ça, c'est le bulletin de santé du végétal qui va vous donner l'état sanitaire des végétaux à un moment donné. Est-ce que les seuils d'alerte sont dépassés ou pas? Mais vous n'aurez jamais de préconisation de traitement dans ces bulletins. Donc ça, c'est totalement indépendant, bien sûr, de la vente des produits et du conseil d'application de produits. Donc c'est uniquement l'état sanitaire.
Voilà.
Alors ça, ce sont des bulletins qui sont... la coordination globale du dispositif, c'est la Chambre régionale d'agriculture. Et on a un animateur par filière. Donc l'animateur pour tout ce qui est zone non agricole, c'est une personne de la Fredon PACA. Et c'est une rédaction collégiale. Et les observateurs sont aussi issus de tout un tas de structures différentes. Il y a 85 structures partenaires et plus d'une centaine d'observateurs au niveau de l'ensemble de la région sur les différentes filières. Mais ça concerne toutes les filières de production. C'est-à-dire que vous avez un BSV en viticulture, en arboriculture fruits à pépins. Vous avez un BSV sur le riz. Vous avez un BSV grande culture. Vous avez un BSV tomates d'industrie, maraîchage. Voilà, donc à peu près toutes les filières sont couvertes, même si toutes les cultures ne sont pas couvertes. Parce qu'après, ça demandera un nombre d'observations absolument faramineux. Mais toutes les filières de production sont couvertes, y compris les filières spécialisées, type plantaire parfum, etc. Et c'est une rédaction collégiale avec, à partir des observations qui sont faites sur le terrain.
Et c'est mis à disposition, ça?
C'est gratuit, c'est téléchargeable sur le site de la DRAF.
C'est téléchargeable.
Voilà, alors, et vous pouvez. Non, alors, voilà, vous pouvez également recevoir gratuitement par mail
voilà, le bulletin de santé, c'est
le bulletin ZNA.
Vous transmettez votre mail, vous le recevez automatiquement, vous n'avez pas besoin de faire la demande d'aller
voilà.
chercher.
Donc vous pouvez vous inscrire via la Fredon.
Il ne faut pas avoir une convention à la Fredon.
Non, c'est totalement gratuit. Vous vous inscrivez, on vous envoie, on vous inscrit sur une liste de diffusion et vous recevrez le bulletin directement.
Voilà. Là, c'est que pour ZNA.
Voilà. Donc notamment les derniers numéros, vous aviez la chenille processionnaire sur un numéro d'octobre, et là c'est le charançon du palmier, le charançon rouge. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu, par exemple, l'état des captures, l'état sanitaire des foyers, etc. Voilà. Autre axe sur Ecophyto, donc je passe très rapidement sur la fin. L'axe 6, c'est les départements d'outre-mer, donc ça ne nous concerne pas. L'axe 7, je vais développer un petit peu, il y a un axe spécifique sur les zones non agricoles. Axe 8, gouvernance communication. Et l'axe 9, la protection de l'utilisateur. Donc là je ne détaille pas non plus, mais donc c'est essentiellement des actions nationales. On a fait le choix en PACA d'ajouter des choses à cet axe 9, et notamment un guide qui va vous être présenté cet après-midi. Donc un guide de protection de l'utilisateur et de précaution au moment de la manipulation de produits chimiques. Alors, sur l'axe 7, zone non agricole, juste deux, trois petits éléments. On vous propose un accompagnement et des outils, à la fois au niveau national et au niveau régional. Le niveau régional, je laisserai Stéphanie Garrido et Franck Quesneau le présenter. Moi, je fais juste un petit zoom sur les actions nationales. Donc, pour les collectivités, il y a un site internet ressources qui permet des échanges de pratiques. Donc, c'est www.ecophytozna-pro.fr. Donc c'est un site qui a été mis en place par Plantes et Cités dans le cadre du plan Ecophyto, mais on n'a pas d'obligation d'adhérer à Plantes et Cités, comme le cas du site professionnel Plantes et Cités. Hein. C'est un site qui est entièrement gratuit, libre d'accès. Donc vous pouvez aller voir des exemples de démarches de collectivités qui ont mis des choses intéressantes en place, en France ou en Europe, essentiellement en France quand même, et il y a quelques exemples européens. Et il y a tout un tas de dossiers très intéressants que vous pouvez aller voir sur ce site internet.
Par contre, sur ce site internet, tout n'est pas... Tout n'est pas téléchargeable, c'est-à-dire qu'en effet, toute l'information n'est pas disponible.
Oui. Après, des fois, il faut contacter éventuellement les collectivités pour aller plus loin.
Voilà. Notamment, il y a un certain nombre de fiches techniques qui sont intéressantes, mais elles ne sont pas disponibles si vous n'êtes pas adhérent.
Non, ça c'est sur le site Plantes et Cités.
Sur
Ecophytozedana aussi.
Oui.
Alors ça doit être des renvois à des fiches Plantes et Cités.
Tout à fait.
D'accord. Non, ils ont fait des renvois aux fiches techniques. Voilà. Parce que le site Ecophytozedana en théorie il est en libre d'accès, mais les fiches techniques Plantes et Cités ne sont accessibles qu'aux adhérents. Donc ils ont dû faire un lien avec les fiches techniques Plantes et Cités. Alors. D'accord. Ensuite sur un autre outil disponible. Donc là c'est un téléchargement également sur Internet. Donc c'est un référentiel qui s'appelle le référentiel de gestion écologique des espaces verts. donc qui est en lien avec un label qui s'appelle Écojardin, qui a été mis en place dans le cadre du plan Écophyto. Donc le référentiel est libre d'accès. J'en ai amené un exemplaire, je peux vous le faire circuler si vous le souhaitez. Donc l'idée, c'est une espèce de grande grille, un document d'accompagnement pour la mise en œuvre de pratiques de gestion plus écologique de vos espaces verts, sachant que les produits phyto, c'est une toute petite partie. Tout le reste concerne l'eau, les équipements, la formation des personnels, l'accès du public, etc. Donc c'est un document guide qui peut vous servir si vous voulez mettre en place quelque chose au niveau de vos espaces. Et vous avez une grille d'audit par type d'espace selon la typologie de l'AITF. Et notamment ce référentiel et ce label qui en découle, mais qui n'est pas du tout obligatoire, ont été mis en place avec la collaboration de 9 grandes villes de France, dont fait partie la ville de Marseille. Donc vous pouvez utiliser ce référentiel comme base de travail. Je sais que certaines collectivités l'ont déjà fait. Vous pouvez aussi aller jusqu'au label, si vous le souhaitez. Donc le label Écojardin, c'est une labellisation par site. Donc vous présentez un ou plusieurs sites à la labellisation et vous avez un audit externe par un organisme certificateur qui va vous donner ou non le label en fonction de la gestion sur le site, mais aussi en fonction de votre démarche globale au niveau de la collectivité. Ça ne va pas cibler que le jardin, par exemple, que vous proposez à la labellisation. La démarche globale est quand même prise en compte. Voilà. Et enfin, au niveau des jardiniers amateurs, donc juste deux, trois petites choses également, parce que je sais que certaines collectivités mettent en place des démarches aussi vis-à-vis des jardiniers amateurs. Donc il y a une campagne nationale de communication avec cette petite mascotte là qui est la mascotte du plan Écophyto sur les EDENA depuis 2 ans. Donc une campagne qui passe notamment par la presse féminine et par la presse pour les jardiniers amateurs, donc les maisons et travaux, etc. Et il y a un site internet qui a été mis en place qui s'appelle Jardiner Autrement. Donc je suis désolée, la fin de l'adresse ça doit être .fr, hein, la fin de l'adresse a disparu sous l'image. Donc là l'idée c'est de donner des outils, de donner des trucs et astuces aux jardiniers. Et il y a un service de questions-réponses aussi qui est disponible. Donc on peut envoyer sa question si on ne trouve pas la réponse sur le site. Il y a un certain nombre d'experts qui vont apporter une réponse dans un délai normalement assez rapide. Donc ça permet aussi de conseiller des jardiniers amateurs s'ils ont un problème spécifique sur un plan potager ou sur un plan ornemental dans leur jardin. Donc c'est un petit outil aussi que vous pouvez, dont vous pouvez diffuser l'adresse, c'est totalement libre d'accès. Il y a des petites choses, des animations pour les enfants, donc c'est vraiment un outil grand public. Voilà. Donc je passe nos coordonnées. Je vous les donnerai si vous le souhaitez, on vous fera passer de toute façon le diaporama. Donc au niveau du service régional de l'alimentation, du service régional de la formation et de l'emploi pour le certifito, et au niveau de l'Afredon, donc on vous fera passer tout ça pour récupérer le diaporama pour nos coordonnées complètes. Voilà. Et donc je repasse la parole à Claire rapidement sur le certifito, si on a encore un petit peu de temps.
Quelques minutes sur le certifito.
J'en parle en 5 minutes.
Toutes les présentations, on les mettra sur le site du Pôle Laguna. Hein, vu que j'ai vos adresses e-mail, en fait, je vous renverrai à tous le lien pour pouvoir télécharger
les interventions. Le certifito, donc, il s'intègre dans l'axe 4. Il faut savoir que le certifito, l'agrément, c'est le seul volet obligatoire du plan Écophyto. Donc, il concerne tous les utilisateurs de produits phytosanitaires. Il est obligatoire à partir du 1er octobre 2013, sauf pour ceux qui font pas de prestations. Donc, les collectivités, il sera obligatoire à partir du 1er octobre 2014. Voilà, c'est un certificat individuel. Ça ressemble à ça, la petite carte. Il sera valable 5 ans. Il est valable 10 ans pour les agriculteurs, mais au niveau des collectivités, il sera valable 5 ans. Et voilà, la demande de renouvellement devra se faire dans les 3 mois avant la date d'expiration. Donc voilà, ça c'est ce que Alice vous a dit. C'est le nouveau nom du DAPA, en fait, qui était obligatoire pour les prestataires dans les espaces verts. Donc voilà, c'est la nouvelle formulation du DAPA, qui était le diplôme, les certificats distributeurs applicateurs de produits antiparasitaires. Sauf que maintenant, il s'applique pour tous les utilisateurs. Je crois que le DAPA était juste fortement conseillé en collectivité, alors que maintenant, il est obligatoire.
Le DAPA, c'est 1 pour 10.
Pardon ?
C'est 1 pour 10, le DAPA.
1 pour 10 en plus au niveau de l'activité, tout à fait. Alors que là, il sera... c'est tous les utilisateurs. Oui, tout à fait, exactement. En plus. Donc voilà, il y a 9 certifitos différents. Donc un pour les conseillers. Pour ce qui concerne la mise en vente, on distinguera les produits professionnels des produits grand public. Après, au niveau des utilisateurs, à titre professionnel, il y a les exploitants agricoles et ceux qui font donc travaux et services, notamment les prestataires, où on différencie les décideurs des opérateurs, Donc l'opérateur, c'est celui qui va faire exclusivement de l'application de produits phytosanitaires, alors que le décideur concerne les personnes qui vont acheter les produits et décider du traitement. Donc des opérateurs, finalement, il y en a peu. Utilisateur à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques dans les collectivités territoriales, où là aussi on va différencier les applicateurs, donc ceux qui vont, dans ce cas-là, décider du produit, acheter le produit, et les applicateurs opérationnels qui vont effectuer uniquement de l'application. Donc on peut l'obtenir par équivalence de diplôme de moins de 5 ans, comme l'a dit Alice, sachant que sur le site de la DRAF, si je ne me trompe pas, vous trouvez la liste des diplômes qui donne l'équivalence. Il peut être aussi obtenu par test, non lié à une formation. Voilà. Il peut aussi être obtenu par une formation d'une demi-journée suivie d'un test, ou alors d'une formation complète, dont le nombre de jours va dépendre du certificat que vous demandez.
On conseille quand même fortement la formation complète, parce que le QCM, c'est notamment sur les aspects sécurité. Et c'est des choses qui sont quand même intéressantes à entendre, et souvent les gens qui viennent en formation n'ont pas concrètement le niveau en fait pour avoir le test directement. Donc la formation complète est très fortement conseillée.
Voilà, donc au niveau des tests, juste pour dire voilà, brièvement, si c'est le test seul, ce sera 20 questions, il faudra obtenir 13 bonnes réponses sur une durée de 1 heure de test. Et par contre, sur la voie formation plus test, voilà, c'est 15 questions avec 10 bonnes réponses à obtenir avec une durée de test de 45 minutes. Donc là, les objectifs de la formation, bien sûr, le volet sanitaire, donc minimiser les risques, savoir réagir à l'intoxication. Un volet environnement, donc définir une stratégie de réduction et limitation des impacts phytosanitaires. Voilà, savoir connaître toute la réglementation quant à l'application des produits phytosanitaires. Et voilà, connaître les méthodes alternatives pour réduire l'utilisation de ces produits. Donc au-delà, bien sûr, être sensibilisé, c'est aussi en formation le moment de, voilà, d'échanger sur les pratiques de tout un chacun. Voilà, proposer des actions à suivre, poser les enjeux et contraintes d'un changement de pratique, etc. Donc là, je vous ai mis, donc pour les collectivités, ce sera normalement 2 jours de formation, peu importe que ce soit applicateur ou applicateur opérationnel. Là, je vous ai mis un exemple de programme. Donc la première matinée, on aborde le contexte réglementaire, donc d'où vient le certificat, et ensuite on fait un point sur qu'est-ce qu'un produit phytosanitaire exactement, voilà, qu'est-ce qui est concerné par la réglementation. L'après-midi, on regarde le constat environnemental et le constat sanitaire pour aborder notamment la notion de dangerosité des produits. Voilà, regarder quelques études de cas au niveau d'évaluation.
Il n'y a pas le niveau décideur pour les collectivités.
C'est applicateur et applicateur opérationnel. Applicateur, c'est les décideurs. Applicateur opérationnel, ce seraient les opérateurs. Ils ont voulu faire compliqué, donc ils ont fait compliqué. La deuxième journée, c'est le matin, on aborde la prévention des risques pour la santé et pour l'environnement. Et l'après-midi, voilà, on aborde les techniques alternatives aux produits phytosanitaires. Donc les produits alternatifs au désherbage et tout ce qui est protection biologique intégrée pour insecticides et fongicides. Il faut savoir que voilà, nous, la Frodon, par exemple, on est organisme de formation, mais que les formations pour les collectivités, elles n'ont pas encore été ouvertes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on attend un arrêté qui définit exactement le protocole de la formation certifito pour les collectivités. Donc normalement, à partir de mars, on devrait pouvoir demander l'habilitation pour faire ces formations. On ne sera pas les seuls, bien sûr, en région PACA, comme au niveau national, il y a plein d'autres organismes de formation. Mais voilà, il faut savoir que c'est bientôt obligatoire, 2014, ça va vite être là, et en même temps, on n'a pas encore la possibilité de pouvoir délivrer ces formations certifito. Voilà. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas.
Je vous propose cependant 5 minutes de pause quand même. Hein. On reviendra quand même assez vite à table parce qu'on a encore pas mal de présentations pour la matinée si on veut manger relativement à l'heure. Voilà. Donc si vous avez besoin de vous resservir un café ou de passer au toilette. Il faut absolument que vous passiez. J'avais prévu midi, voilà, midi, j'avais prévu midi. Donc, si je vois que c'est un peu juste, c'est la présentation de Stéphanie qui sera après vous, et voilà, d'accord ? On s'arrange. Stéphanie, si jamais on a juste autant par rapport à Aurélien, tu passeras après lui, en fait, pour la matinée. Si on
prendre un petit peu juste le temps.
Aurélien passera peut-être un pas de problème.
Si vous partez, je vais bien vous
expliquer. D'accord.
Merci.
Thank you.
Vous avez regardé ? Ah ouais, Vous avez regardé ?
Oui, j'ai regardé le diaporama. Oui, c'est bon. C'est bon, il n'y a aucun souci. C'est très clair.
Voilà.
J'arrive à... Est-ce qu'il l'a détecté ?
Voilà.
Voilà, c'est bon. Pas de problème.
On enchaîne avec
Franck. Là, on va enchaîner avec Franck et après on passera Aurélien directement.
D'accord.
Ou alors on peut commencer par Aurélien et faire
ça. Non, je ne vois pas.
Au niveau du nombre de mots, ça sera là.
Oui, on va commencer par Franck. 17 minutes. Hein. 17. Hein.
17 minutes.
Alors,
ah, c'est ça va.
Il y en a deux, peut-être celui-ci.
Hein. Celui-là, alors. Sûr, c'est bon ? D'accord. Ok, c'est parti.
Moi, tu connais la rampe.
Oui, oui, c'est bon. Voilà, non, mais c'est bon. Je l'ai laissé l'ancien, mais je ne me tromperai pas, il y a le numéro. Voilà, donc dispositif
prévu.
Ok, bah merci.
Bah,
on va faire sa présentation à lui. En fait, on va directement. Et c'est pas lui qui sera la dernière.
D'accord, merci. Bon, nous allons reprendre.
Juste, est-ce que vous avez tous vu les plaquettes certifiées pour vous intéresser à Copito ? Déjà,
voilà.
C'est servi.
C'est bon, souris.
Juste plus droit.
Quand tu dis à quoi à l'autre, c'est la roulette. Voilà, c'est la roulette.
Ah, c'est la roulette.
La roulette.
Ou les clics, alors.
Ou les clics. Oui. Voilà, ou les clics, vous êtes allé.
Ok, les clics, donc, c'est mieux.
C'était que... Nous avons encore deux personnes. Nous allons reprendre avec le dispositif régional présenté par Franck Quedo, de la région PACA.
D'accord.
Et donc la charte régionale d'engagement. Ah oui, Franck, je vais vous distribuer d'ailleurs la charte d'engagement.
J'ai horreur de cet exercice. Ouais. C'est parti. Bonjour, je suis Franck Quesneau, je travaille à la région et je suis en charge du suivi de la charte zéro pesticide sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je vais vous la présenter maintenant. Hop. Ça marche pas tout droit.
Ah, ça marche pas ?
C'est la roulette.
C'est la roulette, alors.
C'est clic gauche ?
Clic gauche. Ah, clic gauche non plus.
Non plus ? Alors comme ça ?
Ah. Bon, c'est...
Avec les flèches, sinon.
Ben, voilà, ça y est.
Attends,
voilà.
C'est parti, mais... Trop vite,
super
après.
Vite. Ah, ouais. J'espère que
vous avez compris. On avait dit 2 minutes, mais
gamme. Bah, merci.
C'est fini, voilà.
Merci,
on a rattrapé le retard.
Ouais. Ceci dit, avec ce qu'on vous a dit sur les bilans des produits et la législation qui va se renforcer, je crois que le plus simple, ce serait d'arrêter définitivement l'utilisation de pesticides. Et comme ça, ce serait réglé. Donc la région a souhaité s'engager dans cette démarche et inciter l'ensemble des collectivités, communautés de communes, départements, à ne plus utiliser du tout de pesticides et ça de façon progressive. Donc dans un premier temps, dès la fin 2011, début 2012, elle a voté une première délibération qui reprend la charte que vous avez entre les mains où elle propose un plan d'action que je vais vous détailler par la suite. Dans un second temps, en février-mars, elle a mis en place un dispositif d'aide à l'emploi pour permettre à des structures un peu plus grosses, départements, groupements de communes, de positionner des agents sur des postes d'animateurs zéro pesticides, qui seraient eux en charge de faire remonter les infos dans des collectivités et diffuser et créer ainsi un réseau pour faciliter nos échanges avec différentes associations, différentes institutions, et puis créer une dynamique. Au cours de cette année 2012, elle a aussi, je dirais, scellé plusieurs partenariats. Un partenariat avec l'Agence de l'eau, qui sera en charge d'aider à l'achat et d'aider à des plans de désherbage. Je parle financièrement. Et puis aussi un partenariat avec l'ARP, qui aura pour mission de plutôt épauler en termes de communication le dispositif. Donc c'est un dispositif qui est exclusivement axé sur les eaux de ZNA. On ne rentre pas du tout dans le monde agricole. On est bien sur des collectivités, on est bien dans des squares, jardins, espaces verts. On sent une facilité pour les espaces verts, qu'on trouvait des méthodes alternatives, qui connaissent les problématiques depuis un certain temps, avec des hautes difficultés plutôt sur les services des sports, qui eux doivent avoir un rendu plus particulier, plus fini sur des pelouses. Beaucoup de difficultés avec des services voiries, qui font des traitements beaucoup plus lourds. On souhaite que ce dispositif et les cimetières, et on souhaite que ce dispositif, après, s'étende, fuse vers les usagers, et puis aussi vers la partie l'os, tous les gens qui vendent des produits et qui s'en servent pour faire des prestations, soit via des marchés publics, soit directement chez les usagers. Alors je reviendrai. Donc la charte que vous avez entre les mains, elle s'articule en quatre temps. J'ai perdu mes notes, mais c'est pas grave. Donc il y a une première phase qui est purement politique, c'est-à-dire que la collectivité, via un arrêté, s'engage à entrer dans une démarche zéro pesticide. Donc on est bien sur une volonté municipale, c'est-à-dire qu'en bref, une charte, ça n'engage à rien. Un arrêté municipal, ça engage la collectivité. Après, on est dans une deuxième période, une période des bonnes pratiques, qui consiste à évaluer le patrimoine qu'on doit gérer, qu'on doit suivre, et voir comment on va faire. Alors on imagine qu'en centre-ville, c'est un petit peu plus délicat, parce qu'on va avoir un rendu plus fini, et puis en périphérie, c'est un peu plus facile. Donc c'est vraiment les plans de désherbage qui sont mis en place pour sectoriser et temporiser les pratiques qui vont être mises en place. On arrive dans une troisième période qui est l'extension des bonnes pratiques. C'est ce que j'expliquais auparavant, c'est-à-dire que si le service espace vert est tête de réseau dans ses pratiques, à lui de le diffuser, ses bonnes pratiques à d'autres services techniques. Et là, on peut s'appuyer sur l'Agence régionale pour l'environnement, qui dispose de supports, que ça soit des expos, que ça soit des plaquettes, des livres, qui a la possibilité de faire des colloques, des réunions. Et ça, Stéphanie Garrido, qui est présente, vous en parlera. Puis on arrive à la quatrième phase, où c'est l'abandon total des pesticides. Alors, on est bien sur la charte, c'est marqué année, mais on est plutôt en phase et en période. On est vraiment conscient à la région qu'il y a des démarches qui se font très vite, et puis il y en a d'autres qui sont plus complexes. Donc plutôt que de travailler par section, on sent qu'il y a des instants qui vont s'entrecouper. Donc c'est une démarche par étapes, avec des diagnostics, de la formation des agents et des élus. La région tient vraiment à ce qu'il y ait un lien qui se fasse entre les élus et les agents. Bien souvent, on entend les techniciens qui disent nous on est prêts, les agents sont prêts, mais au-dessus ça ne suit pas. Et inversement, on a un autre discours des élus qui sont porteurs et qui nous disent nous c'est les services techniques, quoi. Et dans la réalité, c'est un discours qu'on entend, et dans la pratique, on voit pas où ça peut bloquer, si ce n'est un simple manque de communication. puis on intègre les bonnes pratiques, et puis après on les fait évoluer. Il y a une partie qui est aussi importante, c'est de multiplier les acteurs, et notamment des acteurs auxquels on pense pas, qui sont les gens qui rédigent des marchés publics, qui souvent sont mis à l'écart, et je trouve que c'est bien, si vous avez l'occasion sur d'autres formations, de les faire venir. On a assimilé l'histoire de forêts à développement durable, acheter du bois certifié. Quand on fait des aires de jeu, on vérifie que le bois c'est certifié. Bah c'est pareil. Il faut continuer à travailler avec ces gens qui nous rédigent les marchés publics. Donc la région s'est entourée d'aides techniques, d'aide financière, puisque l'agence de l'eau financera une partie des achats, d'aide en information conseil, le tout pour constituer un réseau en espérant que vous fassiez partie du réseau. La région, elle a au travers de ses délibérations aussi pensé à regarder d'autres délibérations qui vont être maintenant liées à l'éco-conditionnalité. C'est-à-dire que souvent des collectivités demandent des subventions pour faire des aménagements. Ces aménagements seront liés au fait d'être signataire de la charte. Ça s'adresse aux élus et techniciens et ingénieurs, faites remonter l'info. L'opération création de postes qui s'adresse, elle, plus à des communautés d'agglos et départements. L'agence de l'eau, donc un de nos partenaires, va aider les signataires de la charte à hauteur de 50% sur l'ensemble des démarches. Donc ils financeront soit de la sensibilisation grand public, soit des actions de formation qui vont arriver, on le sent bien avec la législation qui se met en place, soit de l'achat de matériel. Donc le matériel, on aura, je pense, l'occasion d'en parler cet après-midi. Sachant que l'agence de l'eau va certainement privilégier, si ce qui se dessine, des achats groupés. Quoi. Il est plus question d'acheter pour une collectivité, puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est bien de mutualiser tous ces efforts. À chaque fois, sur chaque slide, je vous les ai mis le nom et l'adresse de la personne référente, mais pareil, vous pourrez avoir les infos par la suite.
Juste pour compléter sur l'agence de l'eau, si tu peux revenir à la diapo précédente, cette opération de l'agence de l'eau, c'est une opération qui a démarré en 2009, donc c'était bien avant la signature de la charte régionale. Donc en fait, ces aides-là, elles sont pas, il faut être clair, elles ne sont pas soumises à la signature de la charte.
Non.
C'est-à-dire qu'une collectivité, elle peut avoir l'aide de l'agence de l'eau, même si elle ne signe pas la charte régionale d'engagement. C'est deux choses complètement différentes. Évidemment, il est préférable, puisque la charte régionale, c'est un engagement politique fort. Et c'est important dans ces démarches-là d'avoir le politique qui soit vraiment présent. Donc, mais on peut pas. Mais on,
enfin, c'est pas lié, c'est voilà, pas forcément
c'est,
lié.
C'est important de dire que c'est pas lié, et c'est important de dire également que l'agence de l'eau, quand elle aide les collectivités, elle ne souhaite pas aider les collectivités sur leurs actions au coup par coup. C'est-à-dire que l'agence, elle ne va pas aider une commune pour le financement de la dernière préventive ou alternative uniquement. Si vous lui demandez de l'argent pour ça, elle vous dira non. Elle veut que cet achat de matériel soit dans une démarche qui est plus globale, avec des actions de formation, la réalisation d'études de diagnostic, d'un plan de désherbage ou pas. Mais voilà, donc elle intervient financièrement si la collectivité rentre dans une démarche globale. Rentrer dans une démarche globale, ça ne veut pas dire nécessairement faire appel à un prestataire, à un bureau d'études pour réaliser votre plan de désherbage. Des choses qui peuvent se faire aussi en interne. Néanmoins, il faut cette démarche-là pour bénéficier des aides de l'agence de l'eau. Voilà, je pense que c'est important
De toute façon, on arrive à un moment de l'histoire où tout doit converger, quoi, où tous les efforts doivent être liés les uns aux autres. Pardon. On ne peut pas avoir des actions séparées en se disant « tiens, j'achète un réciprocateur ». ça plaira à mes agents, c'est super. J'achète un réciprocateur parce que je suis dans une démarche zéro pesticide, parce que je vais rentrer dans un agenda 21, parce que je suis soucieux de l'environnement, parce que je veux que dans mes cantines, on mange bio. Donc ça aussi, c'est un des volets à développer. Quoi. On est un peu dans cet esprit-là.
Excusez-moi.
Oui.
Tout à l'heure, vous avez évoqué la mutualisation de la charte, si j'ai bien compris, en plusieurs collectivités.
Oui.
Vous pouvez éclaircir ce point-là, parce que...
C'est-à-dire que si vous êtes une...
En termes de commande publique, là,
Il y a l'Interco, il y a la communauté d'agglo qui après peut chapeauter différemment. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que les strates administratives se composent maintenant de plus en plus.
Sans l'Interco, le groupement de commandes, ça existe. Il y a des collectivités qui peuvent se réunir pour mutualiser les achats. Donc trois collectivités peuvent se réunir et faire un groupement de commandes pour acheter, par exemple, du matériel alternatif. Sans avoir l'échelon obligatoirement, l'échelon interco.
C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que des gens auxquels on ne pense pas, service des marchés, eux, ils ont la réponse à ces questions. Ils savent techniquement comment faire. Quoi. Et s'ils n'ont pas la demande, ou si la demande elle s'arrête à « on est deux collectivités, comment on fait ?», on n'y arrivera pas. Quoi. Donc faites rentrer l'info jusqu'au service des marchés.
En termes d'achat groupé, techniquement, on l'a vraiment sur le terrain. Est-ce que vous avez des expériences d'achat groupé? Est-ce que ça fonctionne? Je pense notamment au désherbage, en fait, où en gros les systèmes alternatifs, ils sont utilisés souvent. Il y a des besoins qui sont souvent en même temps pour les communes. Est-ce que ça arrive à se formaliser, à se mettre en place? Parce que quelle commune privilégiée par rapport à une autre pour le même matériel qu'ils ont acheté en commun quand l'herbe commence à pousser de partout, par exemple, quoi.
Moi, je présenterai cet après-midi un retour de commune justement sur quatre communes dans le Var qui font un plan désherbage en commun. On est en phase de terminer le plan désherbage, donc j'ai pas de retour sur le partage de matériel, mais ils sont justement dans cette démarche-là. Et c'est intéressant par rapport au fait qu'on parlait d'achat de matériel sans avoir une démarche globale, parce que à la base, elles se sont mis en les quatre ensemble pour acheter un désherbeur thermique. L'agence de l'eau leur a dit ben non, il faut faire une démarche globale. Et du coup, finalement, en faisant le plan désherbage, ils se sont rendus compte que finalement, c'était peut-être pas le matériel adapté. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir cette démarche globale. Après, voilà, je peux pas parler au niveau de la répartition, mais voilà, c'est quelque chose, des outils. En termes de dire, la commune aura tel moment à mettre en place pour voir si ça marche. Mais là, je n'ai pas de retour sur ça encore.
Nous, sur notre communauté, on a ce souci. La répartition est très, très, très mauvaise.
Mais oui.
Alors, ils vont parler un nombre de jours.
Oui.
Mais on va avoir du matériel, mettons, à cette époque-ci, qui ne sert pas du tout. Mmh. Donc, en fait, c'est les communes les plus fortes et les maires qui vont crier le plus fort, qui vont avoir le bon matériel au bon moment.
Ah, c'est comme tout, faire des bons mariages.
Voilà.
Il n'y a pas de garantie. Les équipements, ça va être, on se retrouve avec une machine bien spécifique pour une tâche précise. Et du coup, en général, la poussée des adventices, elle a eu à une époque bien précise. Mi-mars, on va être tous concernés par
le calendrier.
C'est d'où
les communes qui veulent tout ça.
Mais c'est d'où l'intérêt de tout globaliser, même au niveau de la réflexion, au niveau de l'achat, au niveau du plan de désherbage. Si des communes se mettent à quatre pour faire des plans de désherbage, c'est pas que seulement financièrement c'était coûteux, c'est que techniquement il y a un intérêt. Et on sait que les adventistes vont démarrer au même moment. Mais il y a des solutions, il y a des possibilités. Quoi. Et pareil sur les plans de désherbage, un plan de désherbage, c'est pas forcément avec un SIG, une partie informatique lourde et coûteuse. Il y a un plan de désherbage, c'est un audit, c'est se poser la question sur ces espaces et se poser la question sur ces pratiques. C'est ça un plan de désherbage, c'est pas qu'une cartographie qui coûte un bras.
Par rapport à l'aspect matériel aussi, je pense que ça dépend de la taille des communes et ça dépend aussi du type de matériel. Sur un matériel très spécifique, par exemple sur l'entretien stabilisé, ou sur un matériel type réciprocateur qui est très utilisé par les services techniques quand ils ont commencé à l'utiliser, c'est pas du tout le même type de, c'est pas le même type d'usage, c'est pas la même fréquence d'usage. Un réciprocateur, je pense pas que ça vaille le coup de l'acheter en interco parce que c'est suffisamment, enfin c'est pas trop cher et c'est très utilisé. Alors qu'un matériel très spécifique pour traiter des endroits très spécifiques et surtout des petites surfaces sera peut-être plus facile à mutualiser. Donc ça, c'est la démarche globale et la réflexion globale aussi qui va peut-être permettre de répartir les usages.
c'est sur la fréquence d'usage, justement, quand il y a un matériel qui n'est pas encore utilisé pour les communes, est-ce que l'aide à la location, par exemple, du matériel ?
Il faut voir directement avec l'agence de l'eau, je ne sais pas, c'est une bonne question.
Non, ça, apparemment, ce n'est pas prévu, c'est vraiment de l'aide à l'achat de matériel. Ouais.
Il faut trop finir.
Alors, je ne sais plus, je vais lancer ça. Donc après, l'ARP, l'Agence régionale pour l'environnement, que certaines collectivités connaissent parce qu'elles sont en agenda 21 ou vont sur le site de l'ARP, et je dirais plus que outillé de par ses réseaux, de par ses publications, pour renforcer et appuyer votre action sur le terrain, autant avec les services techniques, des formations, des réunions, que les usagers, puisqu'elle est en mesure de faire l'animation. Stéphanie vous en parlera.
Oui, je vais vous détailler après. Cette diapositive.
Elle va détailler la diapositive. La DRAF qui est passée juste avant, Alice Dubois, pour vous dire que la région, en fait, la région n'a pas décidé que les collectivités feraient comme ci ou comme ça. La région réfléchit à vraiment à être elle aussi intégrée dans un ensemble plus large. On s'intéresse à ce qui se passe dans d'autres régions, on s'intéresse aux dispositifs mis en place par l'État, on s'intéresse aux documents que la DRAF met en place, et il y aura des groupes de travail. Parallèlement à ça, la région vient de signer avec l'Agence régionale de la santé vient de proposer la charte à l'Agence régionale de la santé. C'est-à-dire que l'Agence régionale de la santé sent bien que cette charte a une importance et une incidence sur les cours d'eau, sur la nourriture, sur la santé en général. Voilà, donc ça c'est ce dont je vous parlais. Donc, donc on rentre dans l'action 1 de l'ARS qui réduit l'exposition de la population aux agents présents dans l'eau ayant un fort impact sur la santé, avec les cibles, les usagers et les collectivités. Les facteurs du... J'arrive sur la fin. Les facteurs de réussite du dispositif, c'est effectivement d'avoir le plus grand nombre autour de soi, d'en parler, de diffuser l'information, d'avoir vraiment, j'y tiens, ces deux niveaux, un niveau politique, que les élus s'engagent, qui mettent en place des arrêtés municipaux, où ils décident que leur petite commune de 200 habitants, ou que leur commune de 10 000 habitants, ou 15 000, ou 19 000 habitants, abandonne peu à peu l'usage des pesticides. Et puis travailler dans la transversalité, c'est ce que je vous disais aussi, c'est travailler avec tous les services de la mairie, les services voiries, travailler avec les services des marchés, et énormément communiquer et valoriser les actions innovantes. Alors il y a déjà des signataires de la charte qui sont les quatre parcs naturels régionaux, Luberon, Queyras, Verdon, Alpilles, quelques communautés de communes, la vallée du Vars, NPM réfléchit à être signataire de la charte, mais eux pareil, ils souhaitaient être signataires s'ils avaient une démarche vers les agents qui utilisent des produits de nettoyage. Donc ils sont en train de faire ce lien et ils auront une démarche qui sera un peu plus globale. Il y a des communes qui sont déjà signataires, les Pennes Mirabeau, Pierre Vert, Comte-sur-Artoubie, Châteauneuf, Villevieille, Villars-sur-Var, Néouls et Miramas.
Voilà. Si on a d'autres là.
Et Miramas, effectivement, j'ai reçu la délibération la semaine dernière, ou c'était au début de semaine. Voilà. Et puis Bouc-Bélair m'a téléphoné aussi cette semaine. Il y aura une journée de lancement. En mars 2013 au Pen Mirabeau, puisque Pen Mirabeau est la première commune signataire, donc elle aura l'honneur d'accueillir toutes les communes qui vont devenir ou qui sont signataires. Et cette journée de lancement qui est faite pour les politiques et pour les techniciens se fera entre le 20 et le 30 mars, qui est la semaine nationale sans pesticides. Voilà.
Merci bien, Franck. On va accueillir Aurélien Françon.
Vous avez parlé de, d'engagement par arrêté municipal.
Oui.
Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Enfin, en fait, c'est... Ah bah voilà, parfait. Merci.
Alors, pour les petites communes qui ont du mal à...
Ouais.
Pour les petites communes qui ont du mal à rédiger leurs arrêtés municipaux, j'ai un arrêté municipal type et je me sers après de tous les arrêtés des collectivités signataires. C'est ça un réseau. Et je les renvoie à toutes les collectivités comme ça. On le sait tous, hein, des copier, décoller, la bonne législation et puis voilà.
Ça, on le mettra au compte rendu aussi. Hein. On vous mettra tout.
Merci.
Merci bien.
Donc Aurélien Sabat, du syndicateur communal.
Aurélien Sabat.
Pardon, Aurélien François du Sabat, donc syndicat intercommunal d'aménagement.
Syndicat d'aménagement du bassin de Drac.
C'est pas intercommunal. Non,
c'est intercommunal aussi. Intercommunal. Sabat, syndicat d'aménagement du bassin de Drac.
Voilà, du bassin de Drac.
Donc, c'est un syndicat de rivière en fait. Alors, je vais juste vous présenter notre territoire de compétence en fait de notre syndicat de rivière. Donc le bassin versant regroupe 24 communes, enfin ça touche 30 communes, mais il y a 24 communes adhérentes au syndicat. Donc on a deux communes dans le Var, Pourcieux, Pourrières, et 22 communes dans les Bouches-du-Rhône, donc l'Arc, la rivière, va de sa source à Pourcieux jusqu'à l'embouchure à Berlétang. Donc moi, mon poste, en fait, il a été créé assez récemment. En fait, je suis arrivé il y a un an au syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc en tant que chargé de mission pollution diffuse. Donc notamment sur les problématiques de pesticides et puis d'engrais. Mais on a vraiment voulu avoir une démarche globale, c'est-à-dire pas simplement s'adresser au milieu agricole. Donc comme il y a beaucoup en fait d'animateurs agricoles sur ces problématiques-là. Et nous, on est plutôt... vraiment une démarche globale et s'adresser à la fois aux zones non agricoles, les collectivités, les particuliers, les agriculteurs et vraiment tous les utilisateurs potentiels. Donc même les golfs. Donc pour l'instant, j'ai surtout travaillé avec les agriculteurs et les collectivités. Peut-être qu'après, le Conseil général aussi, je suis en relation avec eux. Peut-être qu'après, ça ira... Et les particuliers, on va éditer un livret justement avec l'ARP. Donc pourquoi en fait le SABA a vraiment voulu s'intéresser à ces questions-là? Déjà il y a l'enjeu DCE, donc la directive cadre européenne, qui impose le bon état des eaux, et notamment des eaux de surface et des eaux souterraines, et là des eaux de surface d'ici 2015. Donc d'ici 2015, c'est très bientôt. Nous, sur notre bassin versant, en fait, on a 5 masses d'eau qui sont concernées pour le bon état en 2015. Les autres masses d'eau, c'est repoussé à 2021-2027. Donc on est plutôt sur l'Arc Almont, la haute vallée de l'Arc, où l'Arc justement est concerné par pour 2015. Donc comment on définit un bon état de la qualité de l'eau? C'est à la fois on a un état écologique, donc les micro-invertébrés qu'on peut retrouver, les différentes actions qu'on retrouve, si on retrouve les bonnes espèces, les espèces bio-indicatrices, et puis l'état chimique. L'état chimique, on l'a vu tout à l'heure, en fait, c'est les 41 substances prioritaires qui ont des seuils, donc avec une norme de qualité environnementale. Et si une de ces molécules-là est retrouvée et dépasse son seuil, la qualité chimique de l'Arc est dégradée. Donc nous, sur la qualité chimique de l'Arc, en 2011, on est à un bon état, à peu près sur les masses d'eau. Par contre, sur l'Arc Amont, on est en mauvais état. Donc c'est un phyto en fait qui déclasse cet état-là, c'est l'endosulfurant d'insecticide qui est interdit depuis 2007, qui était utilisé en grande culture, un peu dans toutes les filières agricoles, et même en ZNH, je crois. Et puis après, l'état écologique, on est plutôt... Après, l'état écologique, ça varie beaucoup parce qu'on sera un état critique à l'étiage en été, et en hiver, on sera plutôt un état moyen à mauvais. Alors qu'en été, on sera plutôt à moyen mauvais en été, en hiver, moyen à bon. Voilà à peu près. Après, ça dépend des différentes masses d'eau. Donc cette volonté, en fait, de travailler sur ces pollutions diffuses avec les agriculteurs et puis les zones non agricoles, c'est aussi exprimé, en fait, dans le SAGE. Donc je ne sais pas si vous connaissez le SAGE. En fait, c'est le schéma d'aménagement de gestion des eaux. Donc en fait, c'est un outil de dialogue et un outil de planification. donc planification et un outil réglementaire. Donc ça veut dire que, par exemple, une commune qui fait des documents d'urbanisme, bah, faut qu'il soit en compatibilité avec ce SAGE-là. Et que ce SAGE, il fait des dispositions sur la lutte contre les pollutions diffuses, sur le bon état écologique de l'eau, sur la lutte contre les inondations. Et puis, il a surtout deux dispositions, enfin surtout, parce que là, c'est ce qui nous concerne, deux dispositions concernant la réduction des phytos. La disposition 35, qui est plutôt orientée sur les zones non agricoles, donc les particuliers et puis les collectivités. Et la disposition 36, qui est là pour les agriculteurs. Donc après, c'est des outils de sensibilisation, c'est des outils d'accompagnement pour les agriculteurs et pour les collectivités. Et puis le contrat de rivière, donc ça je le présente rapidement. Le contrat de rivière, en fait, le SAGE, c'est le cap à suivre. Le contrat de rivière, c'est la mise en application ces dispositions-là. Donc en fait, c'est des contrats, c'est comme des contrats d'intention. On définit pour une action, par exemple, mon poste, c'est une fiche action du contrat de rivière, animateur de bassin versant. On identifie le maître d'ouvrage, les possibles financeurs, et c'est un contrat d'intention qui peut être mis en place. Donc ça se fait aussi pour les inondations, pour toutes sortes d'actions à l'échelle du bassin. Donc là, cette action-là, donc c'est vraiment de la sensibilisation des collectivités et puis des particuliers sur le bassin versant. Puis vraiment, en fait, on a vraiment une grosse problématique phytosanitaire sur notre bassin versant et sur les autres bassins versants. Mais sur notre bassin versant, il y a une étude qui a été faite en fait par la Fredon-PACA, une étude synthétique de synthèse sur 2003-2007 sur les phytos qu'on pouvait retrouver sur notre rivière. Donc là, nous en fait, on a 5 points de prélèvement agence de l'eau sur notre rivière. Donc un qui est plutôt à l'amont, au niveau de Rousset. Un après Aix en Provence, on en a un autre sur deux affluents, et le dernier il est vraiment à l'aval du bassin versant à Berlétan, en fait pratiquement avant l'embouchure. Donc là, cette étude là elle a défini qu'on retrouvait 14 molécules différentes de produits phytosanitaires, surtout des herbicides, donc principalement des herbicides, et dans 95% des cas on retrouvait des concentrations de phyto supérieures à 0,1 microgramme par litre. Donc 0,1 microgramme par litre, c'est juste la norme de potabilité. Donc on peut pas l'interpréter sur notre rivière parce que nous, c'est pas de l'eau de consommation, mais au moins ça donne des valeurs seuils. En 2011, on a fait un suivi aussi de la qualité des eaux. Donc on a juste eu 2 points de prélèvement pesticides. On retrouvait, en fait, sur nos points de prélèvement pesticides, à chaque fois, on retrouve l'AMPA, en fait, le produit de dégradation. On ne trouve pas le glyphosate, on trouve surtout l'AMPA, le produit de dégradation du glyphosate. Donc, et à des concentrations parfois énormes. En fait, nous, on s'est arrangé sur nos prélèvements pour le faire juste après pluie, donc après fort ruissellement, et on retrouve des teneurs. L'année dernière, on a eu du 20 microgrammes par litre. Par contre, après, nous, faut qu'on n'a pas de données de flux, en fait. Ce qu'il nous faudrait, c'est de les combiner avec des données de flux. Donc, on va peut-être investir, je ne sais pas, pour mesurer ça, pour après avoir des données de flux et avoir des données de concentration à l'hectare, etc. Donc, on retrouve principalement en 2011 des herbicides aussi. Donc, on a 9 herbicides. Alors, ce que j'ai fait, voilà, ça c'est les points de prélèvement en fait sur le bassin avec l'occupation des sols. En fait, on a mis l'occupation des sols. Ce qu'à savoir, c'est vraiment sur le bassin versant, on a l'amont qui est plutôt viticole avec des petites à moyennes communes assez rurales. Mais on a quand même une forte pression démographique en fait, croissance démographique depuis ces 30 dernières années. On a des communes qui se périurbanisent pas mal. Après, on a le bassin médian en fait. Donc au milieu Aix-Gardanne, avec le plus urbanisé en fait, avec la Aix-Gardanne, et puis après on a l'aval avec la plaine de Berre, Berlétan. Donc là on est plutôt sur Aix-Gardanne, ça va être au niveau agricole, ça va être du maraîchage, du céréal. Donc là j'ai synthétisé en fait, c'est les données, là on va le voir plus précisément, ce que j'ai extrait en fait, les données de l'agence de l'eau sur l'année 2011, sur les phytos. Donc je vais passer rapidement parce qu'on en a déjà parlé, sur les phytosanitaires qu'on pouvait retrouver, et je l'ai corroboré en fait aux classes Donc j'ai pas pris les normes de qualité environnementale parce que les normes de qualité environnementale, il y en a pas pour toutes les molécules. Donc j'ai pris en fait le SECO, ce qu'on appelle SECO, système d'évaluation de la qualité des eaux, qui va de très bonne qualité à très mauvaise pour l'état chimique. Et en fait, ce qui fait ressortir ce graphique-là, c'est que la MPA, en fait, le produit de dégradation du glyphosate, la molécule fille du glyphosate, qui est voire plus rémanent, plus toxique dans l'environnement, c'est ce qu'on retrouve dans 85% des échantillons, on en retrouve. Donc pratiquement à tous les coups, on en retrouve. Le glyphosate, un peu moindre, on a l'ordre de 60%. Et puis après, on a beaucoup aussi de produits en fait d'origine mixte, donc qui sont plutôt soit utilisés en non agricole, mais qui peuvent être utilisés en agricole aussi. Voilà, soit je vais passer rapidement. Le 2,4-MCPA, en fait, lui, je crois qu'il est dans les substances prioritaires. Lui, il dépasse en fait son seuil. Je l'ai regardé hier, il dépasse juste le seuil de 1,5. Là, je vais passer rapidement aussi. C'est sur l'évolution, en fait, pour voir l'évolution des molécules. En fait, il n'y a pas de logique. Enfin, je voulais voir s'il y avait des logiques de diminution ou d'augmentation des produits dans la rivière, mais en fait il n'y a pas de logique, c'est vraiment en fonction quand on l'a prélevé, en fonction de la pluie, enfin ça varie beaucoup.
L'inquiétant sur le diuron, c'est que le diuron n'était plus présent en 2009, ouais, en octobre, je ne sais pas si c'est une faute d'analyse, il est interdit depuis le 1er janvier 2009.
C'est 2009 ou... Ah oui, c'est 2009, oui. On le retrouve.
Il y a
un pied de grappe
qui apparaît sur ton métier en octobre.
Après, je ne sais pas comment. Donc là, les actions en fait qu'on a menées, sur le bassin versant. Donc c'est comme le parc de Luberon, en fait, c'est des audits. Donc moi, j'ai proposé de faire des audits aux communes. Donc c'est des audits surtout sur les pratiques en fait. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est désherbé chimiquement dans la commune? Pour pouvoir après réfléchir sur d'autres alternatives ou d'autres types d'aménagements pour éviter d'avoir à désherber chimiquement ces endroits-là. Donc c'est sur les méthodes d'entretien. Après, comment sont gérés les déchets? Tout ce qui est les produits phyto non utilisables, les bidons vides. Comment sont faits les rinçages? Donc ça, sur les pratiques de rinçage aussi. Plutôt choisir une aire perméable, éviter de choisir une aire imperméable pour le ruissellement. Donc là-dessus, il y avait pas mal de... En fait, toutes les communes que j'ai visitées, donc je n'en ai pas visité beaucoup, c'est l'ordre de 6-7 sur les volontaires, elles étaient toutes... Il y avait toujours un point qui n'allait pas. Donc sur le local de stockage, souvent c'était pas fermé à clé, c'était pas identifié, c'est des petites choses. La rétention était rarement présente. Sur les équipements de protection, donc il y avait 2-3 communes qui avaient les bons équipements aux normes, mais les agents ne les mettaient pas forcément. Et après, c'est des petits détails comme ça. Mais en fait, le but de ces audits, moi, pourquoi j'ai fait ces audits-là, c'est pour montrer aux communes que d'utiliser des phytos, ça peut être très contraignant. Et quand une commune n'en utilise pratiquement pas, quand elle a un bidon pour l'année, peut-être que le plus simple, c'est de ne pas en utiliser du tout et de s'adapter et de réfléchir à d'autres actions. J'ai fait aussi je travaille là pour l'instant avec une commune sur un inventaire en fait des pratiques de désherbage. Donc c'est pas tout à fait un plan de désherbage en fait, c'est juste je vais sur le terrain accompagner des agents, identifier les zones qui sont désherbées chimiquement et puis les zones qui peuvent être désherbées non chimiquement. Et on essaye de cartographier ça. Donc c'est vraiment un travail avec la commune et pour essayer d'identifier les zones. Donc par exemple, on pourra extraire la surface d'espace sablé qui est traité chimiquement et essayer de pouvoir les orienter vers un matériel ou un aménagement en fonction du vouloir de la commune. On a organisé aussi une journée avec la Fredon PACA, une journée de démonstration des techniques alternatives. Donc il y avait du matériel, donc il y avait le réciprocateur en bas à droite, il y avait du désherbage thermique au chaud, il y avait une sarcleuse bineuse, un broyeur, il y avait une pépinière aussi pour tout ce qui est végétaux locaux et puis couvre-sol, et une balayeuse, micro-balayeuse mécanique. Il y avait du paillage qui était présenté. On a fait aussi une journée avec l'ARP, une journée de sensibilisation, en fait, enfin une journée sur on présentait la charte aux communes. Le tout, moi, en fait, c'est vraiment de faire émerger des projets aux communes et de les accompagner vers des démarches zéro phyto. On a fait aussi, donc on a une animatrice pédagogique et donc avec elle, on a organisé des ateliers lors de manifestations. Donc il y avait une commune qui organisait une manifestation, donc la fête de la nature, la fête de la science. Nous, on intervenait par exemple sur des ateliers de sensibilisation des enfants. Donc c'était vraiment un cheminement, en fait, c'était un jeu. On commençait par leur montrer, on avait une coupe du bassin versant, on utilisait du colorant alimentaire. Et on leur montrait la migration, donc on assimilait le colorant au produit. On leur montrait la migration dans le bassin versant pour montrer l'impact que ça pouvait avoir, où ça pouvait se retrouver, à la fois dans les eaux souterraines, dans la source, dans la rivière. Et après, on leur montrait aussi l'impact que ça pouvait avoir sur les sols aussi. Là, c'est juste en bas à droite, c'est un verrarium en fait. On a mis des vers de terre, et puis au final, on a vu que ça se mélangeait, enfin, le rôle du vers de terre dans le sol. Si on utilise des produits, ben, on baisse le taux de vers de terre dans le sol. Donc voilà, c'était vraiment un cheminement. Et puis, donc ça a bien marché en fait. C'est vraiment sur des manifestations ponctuelles. Alors là, je vais juste vous présenter deux communes qui sont sur mon bassin versant, qui sont bien avancées en fait sur le sujet. La commune de Pourrières. Donc ça, c'est une commune qui est très agricole, en fait il y a beaucoup de viticulteurs, c'est à l'amont du bassin. Donc 4500 habitants, ils ont à peu près 40 km de voirie, 40 km de chemins communaux. Ils n'ont pas beaucoup d'espace vert, en fait ils n'ont pas beaucoup d'espace, enfin ils sont pas village fleuri, ils n'ont pas beaucoup de massifs fleuris, pas beaucoup d'espace planté. Ils ont 13 agents techniques de voirie espace vert. Donc cette commune là, en fait c'est le point de départ, c'est vraiment ça part vraiment du technique. C'est le directeur des services techniques qui a été sensibilisé à ça. En fait, il y avait la secrétaire en fait, des services techniques. Son mari travaillait pour une autre commune. Et un jour, il est revenu en fait, chez lui. Après un traitement, il a serré sa fille dans ses bras. Et du coup, la fille a eu une allergie, enfin, des brûlures liées au phyto. Donc lui, il a tout de suite été sensibilisé à ça. Et c'est vraiment un point de départ de santé, en fait. Donc, progressivement, en 8 ans, ils ont réduit par 8 leur consommation de produits phyto. Donc, essentiellement, ils désherbaient la voirie, tout ce qui est pied de mur, qui est bordure de caniveau, massif, pied d'arbre. Donc, ce qu'ils font, c'est un balayage mécanique régulier, en préventif, en remplacement. Donc, c'est vraiment tous les jours, en fait. La balayeuse, elle passe tous les jours dans la commune. En préventif, sur la voirie principale, sur la voirie secondaire, c'est du balayage manuel. Ils font de l'arrachage manuel ponctuel, de la débroussailleuse sur la voirie, dans les massifs. Et ils utilisent beaucoup de paillage, en fait, que ce soit des copeaux de bois, tout leur massif. Enfin, il y a énormément. Ils n'ont pas beaucoup de massifs, mais leurs massifs, ils sont pratiquement tous paillés, en fait. Que ce soit du minéral, du végétal, du copeau de bois et puis de la pierre, en fait, ils utilisent. Donc après, ils ont, enfin, d'après ce que me dit le directeur des services techniques, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont pas mal d'agents quand même. Enfin, l'avantage, c'est qu'ils ont beaucoup d'agents sur le terrain.
Les agents, c'est beaucoup.
Ouais.
C'est beaucoup par rapport à d'autres communes.
Ouais. Bah oui, bah, c'est ça.
C'est aussi un volet important. Le fait de réduire les pesticides, c'est créer des emplois et prendre un jardinier en plus. Il faut que les collectivités se posent la question. Il n'y a pas de mal à créer de l'embauche par les
entreprises.
Je pense qu'il y a les solutions, comme on a fait nous, c'est les brigades vertes. C'est des embauches. C'est de l'insertion de personnes,
ouais,
avec un projet de 3 à 6 mois sur de l'insertion, sur de la formation. Et en fait, on leur explique qu'ils vont travailler manuellement, mais en fait, que c'est valorisant. Parce
oui,
en fait,
le travail du jardinier est plus valorisé.
Arriver à faire, en fait, c'est la méthode alternative qu'on a trouvée la plus efficace.
Ouais. Oui. Nous, il y a pas mal de communes aussi qui font intervenir des chantiers d'insertion aussi, comme ça, sur l'entretien.
Ça permet en plus d'expliquer la démarche, quand on passe du phyto, et sans avoir personne autour de soi. Quand on est en train de faire de la binette, fortes chances qu'on ait l'occasion d'expliquer pourquoi on fait de la binette.
C'est pareil, tout à l'heure, on a parlé des personnes qui étaient équipées, de ne pas trop les montrer quand ils désherbent. Moi, je trouve que c'est le contraire. Si je fais intervenir quelqu'un,
être, il faut que visuellement on le voit, il est super équipé, que ce soit dangereux. Et que les gens, ils interpellent le maire, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais.
Qu'ils aient conscience voilà. du danger.
Moi, je trouve que c'est un... Moi, je préfère. Ouais. Je préfère faire au peur. Et qu'on me dise, bon, écoutez, arrêtez. Ouais. Et pourquoi vous les équipez comme ça? Parce que justement, on est
pas que oui, qu'est-ce que c'est très bien.
Alors là, par contre, la commune, sur le, il y a encore deux points noirs, en fait, c'est les terrains de sport, le terrain de sport qui est traité encore, et le cimetière. Donc là, ils ont pas encore, ils sont pas encore à passer, c'est pas diminué encore les désherbements. L'autre commune, c'est une commune un peu plus grosse, Gardanne, 22 000 habitants. Donc Gardanne, après, c'est particulier aussi, c'est pas, donc c'est une ancienne cité minière. Il y a Pechinet, enfin Rio Tinto, donc c'est très... Au niveau environnemental, en fait, peut-être que les habitants ont quand même une... Ils peuvent accepter plus, en fait. Parce que c'est assez industriel, c'est... sur... Alors, ce qu'il a fait, le service technique, c'est depuis cette année, en fait. Alors là, c'est vraiment un arrêt brutal, en fait. Depuis cette année, ils n'ont plus acheté de désherbants, ils n'ont plus rien acheté. Ils vont évacuer les stocks, en fait, par des filières spécifiques. Et ils utilisent... Alors là, ça concerne la voirie et les espaces verts. Ils n'utilisent plus de produits en fait sur la voirie et les espaces verts. Donc comment ils ont fait en fait? Ils ont laissé pousser. Tout simplement, ils ont laissé pousser jusqu'à avril. Et après, ils ont fait des campagnes en fait, peut-être 5-6 campagnes de désherbage manuel, de débroussailleuse par secteur en fait. Donc le personnel tournait. Donc l'autre avantage de Gardanne, c'est qu'ils ont beaucoup de personnel aussi. Ils ont 64, je crois, agents pour les bâtiments, tout confondu, et 17 cantonniers en fait qui sont. Donc ça fait quand même beaucoup de personnel pour cette commune là. C'est un des avantages pourquoi ils ont réussi à faire ça. Ça reste une volonté technique aussi, c'est le service technique. Les élus ont suivi. Il y a juste le cimetière où c'est compliqué. Donc le cimetière en fait, ils interviennent encore en chimique. Par contre, ils ont abandonné le glyphosate. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils utilisent le finalzan. Donc je sais pas si c'est mieux. C'est un produit. À base d'acide pélargonique, donc le naturel, ils m'ont dit aussi que c'était. Ouais. Ouais. Par contre, ça associe à une molécule de synthèse qui est. Je ne connais pas bien moi ce produit-là, donc c'est pas 100%. Et puis c'est des volumes beaucoup plus importants, des concentrations plus importantes. En fait, lui il voulait une alternative au glyphosate, pour l'instant il fait ça. Après, peut-être que ça tendra vers autre chose justement. C'est une transition en fait, il voit ça comme une transition.
Et après, le fait de laisser pousser l'herbe comme on voit sur les deux photos de gauche, même si on la coupe en été, enfin début d'été, les racines, je pense aux chiens d'envoi qui travaillent malgré tout à l'intérieur, le risque c'est de refaire les enrobés ou les couches sur les trottoirs.
Une dégradation.
Parce qu'au fur et à mesure, ça craquelle quand même, et après on a l'eau, on a le gel.
Pas trop de retour là-dessus.
Il faut suivre, faire attention,
Bah là, bon.
Puis ça repousse vite, hein, parce qu'ils le font à la retrouvée, on recoupe ça.
Ah bah c'est plus de passage, oui, c'est sûr, ça déracine pas. Après, moi mon but, c'est vraiment de leur dire, on va peut-être passer un peu plus de temps, ça va être peut-être plus compliqué, la mise en place peut être compliquée, mais le tout c'est de s'organiser pour essayer de trouver, gagner du temps ailleurs, essayer de faire...
Puis l'acceptation des mauvaises herbes aussi, c'est une démarche qu'on peut
tenir avec les usagers.
Oui. Les deux trottoirs sur la gauche, honnêtement, moi j'ai tout nickel, il n'y a pas un papier, ils sont propres et enherbés. Dans le Luberon, la région a financé des expos sur les mauvaises herbes, sur l'acceptabilité des mauvaises herbes.
Là, il n'y a pas eu tant de plaintes que ça, en fait, finalement. Ça a assez bien passé. Hein. Il y a peut-être eu un courrier, je crois, vraiment un courrier d'un particulier. Les élus, ça laisse peut-être au niveau des cimetières. Il n'y a pas eu tant de plaintes que ça, en fait. Ça a été plus ou moins accepté. Après, voilà, ils font un peu aussi de thermique sur des aires, thermique à flamme, en fait, sur des aires sablées. Donc après, il faut voir le but, sa tenue, en fait, c'était vraiment l'année charnière, en fait, c'est la première année, voir si ça fonctionne ou pas.
Quel a été l'élément déclencheur de cet arrêt brutal, en fait?
C'est le service technique, en fait, c'est le directeur des services techniques qui voulait vraiment lancer la démarche. Ouais. Après, ce qui était dur, c'est de lancer les services aussi.
La communication qui est importante. Oui. Moi, je sais qu'à la base, si je suis parti là-dessus, c'était l'étude qui a eu en 2005 de la fraude que présentait Anne-Mère.
Je veux dire, et quand on présente ça aux gens, et aux élus, etc., je veux dire, il faut leur faire prendre conscience. Moi, encore hier, je me suis attrapé avec une des élus qui trouvait qu'il y avait de l'herbe dans une rue. Donc, je lui ai expliqué, mais il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, est-ce que vous trouvez que c'est sale d'avoir de l'herbe? Ou est-ce qu'on va mettre quelque chose de propre, nickel, mais avec derrière, enfin, qui implique des produits chimiques et tout ce que ça va impliquer derrière? C'est ce qu'il faut arriver à faire comprendre aux gens. Ce qui est net et propre, c'est pas forcément bon.
Ouais. Ça dépend des espaces aussi. Il y a peut-être des espaces plus fréquentés ou plus, où il y a plus d'enjeux, où là on va vraiment désherber, et d'autres où on peut laisser et on
juste. Justement, voilà. Alors, si on a du personnel, il faut les concentrer sur ces endroits-là.
Oui.
Moi, ça fait une dizaine d'années que j'essaye des solutions alternatives. Oui. C'est vrai que ça fonctionne, mais sur des petits espaces. Ouais. Il faut vraiment qu'ils puissent y tenir, etc. Si un gars lui donne un désherbeur thermique, il va désherber une fois le rond-point, puis voilà, il n'y a plus quelque chose, une semaine après l'herbe repousse, il va dire, moi, je ne vais pas passer à l'enquête, je vais expliquer qu'à tel endroit, si, tu vas le faire et tu reviendras. À tel endroit, tu laisseras de l'herbe et puis tu vas être colonisé.
Donc là, bizarrement, ils n'ont pas fait beaucoup de communication, par contre. Ils ont un super service de com sur les déchets, etc., qu'ils l'ont utilisé. Là, ils n'ont pas encore fait trop de communication là-dessus, ils préfèrent attendre.
Et après, c'est vrai qu'il faut que le politique soit vraiment derrière. Ouais. Moi, j'ai même vu le maire avec des personnes qui se plaignaient qu'on venait passer rapidement devant son trottoir. Il a dit, mais si vraiment ça vous gêne, vous prenez la raquette, vous le faites. Puis c'est le maire qui a dit ça à la personne. Ouais. C'est vrai que l'avantage qu'on a, c'est que le maire adhère, les services adhèrent. Je veux dire, on a un service SGNVT1 avec qui ça fonctionne très bien. Et en fait, c'est un tout. Et comme je dis, il y a encore, moi, le problème que j'ai, c'est encore quelques agents dans le service à arriver à convaincre. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, voilà, on a cet avantage-là. Moi, j'ai connu des endroits où le politique ne voulait pas du tout le faire, donc je pense que c'est dans la commune, parce que ça ne marchait pas. D'autres, voilà, ça, c'est sûr que si toutes ces conditions-là ne sont pas réunies, on n'y arrivera pas.
C'est vrai que ça reflète tout à fait ce que j'ai entendu la semaine dernière dans le parc du Luberon, où les communes disaient exactement de la même manière, s'il n'y a pas un engagement fort d'un politique, c'est plus compliqué, quoi. On avait... différentes communes avec différents niveaux d'implication du politique, et en fonction de ça, c'est vrai que ça se met en place plus ou moins facilement.
Vu qu'il est tard, on va passer quand même à la présentation de Stéphanie Garito pour clore cette matinée. Voilà.
Moi, je voulais juste rebondir sur la présentation d'Aurélien.
Merci,
pour vous dire qu'en fait, le poste d'Aurélien, là, il est évidemment pas financé, il est financé par l'Europe.
C'est l'agence de l'eau et l'Europe, en fait.
Voilà, et l'agence de l'eau, typiquement, ce type de poste-là peut être financé, donc évidemment par l'agence de l'eau, par l'Europe, mais peut être aussi financé maintenant par le dispositif créé que vous a présenté Franck Hainaut. Donc quand Aurélien est arrivé, le dispositif n'existait pas encore au niveau de la région. Mais voilà, c'est typiquement ce type de poste-là, à des échelles autres qu'une échelle communale. Là, on est sur un syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc, donc on est sur le bassin versant. Ben voilà, donc ils travaillent pour les communes, pour aller dans cette démarche-là de réduction des filtres.
Mais sur des gestionnaires en fait, de milieux aquatiques, je crois qu'en PACA, je dois être le seul.
Il faut arriver à pousser un peu le...
Pour le moment, on espère.
Pour le moment,
on espère justement qu'au travers de ce type de...
Est-ce que vous travaillez avec la
J'ai proposé que tous les communes de l'Essarab, dans le cadre de la paix, ils ont fait ça
des contrats d'État. Oui, c'est vrai qu'il m'en a parlé, Raphaël Crizel, au niveau des communes qui sont dans le contrat d'État. Donc, je pense qu'il faudrait que je me rapproche d'eux pour réévoquer cette problématique des postes à créer.
Oui.
Hein, parce que je pense que c'est la clé, déjà, donc essentielle pour vous tous, enfin, en tout cas, à l'échelle bassin versant de Berre, et même, je pense, également aux autres, de voir quels sont les syndicats potentiels qui pourraient aussi... pensez à ce type de recrutement. En tout cas, on est là aussi pour en parler. Et je pense que ça fera partie des questions posées en discussion en fin de journée. Hein.
Voilà. Oui, parce que c'est pas négligeable. 36 000 euros, 18 000, 12 000, 8 000.
Ouais, voilà.
Sur 3 ans.
Et pérennisation du poste.
Et pérennisation, voilà. Donc, bon, voilà, c'est pas une bonne...
Ça fait quand même réfléchir. Voilà.
Ça montre quand même.
Ah oui, d'accord.
Donc moi, on m'a chargé de vous présenter ce qu'on essaie de développer depuis quelques temps à l'agence, qui est l'appui aux collectivités dans la mise en œuvre de cette thématique-là. En fait, nous, à l'agence, on est rentrés dans cette thématique par la porte de l'agenda 21. Dans mon service, on accompagne des collectivités depuis 6 ans maintenant qui sont dans des démarches d'agenda 21, qui est une démarche globale qui touche tous les secteurs de la collectivité. Et en travaillant sur ces projets-là d'agenda 21, On rencontre systématiquement les différents services d'une collectivité. En fait, on s'est rendu compte qu'en rencontrant souvent le service espace vert ou le service technique de la collectivité, l'entrée des espaces verts était une entrée intéressante, importante, pour toucher une des finalités du développement durable qui est la préservation de la biodiversité et des ressources. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on est rentré dans cette thématique-là des espaces verts et qu'on a essayé de développer un appui, comme l'appui qu'on développe pour les agendas 21. On essaie de voir comment on peut construire un appui pour vous aider pour travailler sur cette thématique-là. Après, évidemment, les partenaires et la charte régionale est venue conforter la construction de cet appui-là. Donc en fait, je vais vous présenter ce qu'on essaye de développer. Les trois grandes parties, c'est essayer d'outiller la collectivité en termes de ressources techniques et en termes de ressources méthodologiques. Donc je vais vous présenter les différents documents et les différentes choses qu'on essaie de vous proposer. Ensuite, le deuxième point, c'est la construction. On se pose la question, on se l'est posé avec la région et puis on se dit que c'est intéressant de construire un réseau de collectivités sur cette thématique-là, puisqu'à l'agence, on anime différents réseaux, un réseau sur la commande publique, un réseau sur les agendas 21. Donc on a l'habitude d'organiser différentes journées techniques, régionales, des ateliers d'échange. Et on s'est dit, pourquoi pas aussi demain construire un réseau de collectivités qui travaillent sur cette thématique-là, donc sur le zéro phyto et plus largement sur la gestion durable, des espaces verts. Donc on est là-dedans. Et on essaie de se dire, les journées comme aujourd'hui, on récupère vos mails, ça nous permettra de construire ce réseau avec évidemment le réseau des communes signataires de la charte.
Par exemple, la pertinence de ces journées, de ces réseaux, c'est de savoir qu'on peut le faire, d'avoir des retours d'expérience et de connaître les points de blocage, notamment pour les cimetières.
Je vais les détailler.
C'est ça la pertinence. On s'aperçoit que. Deux portes, on nous dit, les cimetières, c'est pas possible. Puis au fin fond d'un département, il y a une région qui ne vient pas nous, les Pays de Mirano. Nous, on a commencé par le cimetière. Voilà,
C'est de capitaliser un petit peu tous les retours d'expérience des collectivités. Et le troisième point que je vais vous développer, c'est les outils de communication et de sensibilisation qu'on essaie de vous mettre à disposition. On l'a vu ce matin, le changement de pratique, c'est une chose, mais c'est important de communiquer pour les élus, pour les techniciens, pour les agents aussi un peu réfractaires, mais aussi pour le grand public. Donc, c'est les outils qu'on peut vous mettre à disposition que je vais vous développer. Alors le premier point, la ressource technique et méthodologique, globalement ça se scinde en deux points. On a mis en place depuis quelques temps ce qu'on appelle un point info. Alors on l'a mis en place dans le cadre des agendas 21 qu'on accompagne et ça marche très bien. En fait c'est une collectivité, un élu, un technicien a une question sur un problème donné, il m'appelle et moi j'essaie de voir comment je peux l'aider à répondre à sa question. Alors des fois c'est tout simple, c'est un problème méthodologique, je vais le guider vers un document, vers un guide qui peut lui apporter une réponse. Des fois, c'est un peu plus compliqué, et donc du coup, et moi, je ne sais pas y répondre forcément. Donc du coup, je m'appuie auprès de partenaires comme la DRAF, la Frodon, qui eux sont un peu plus experts et qui vont apporter la réponse. Dernièrement, j'ai été contactée par une collectivité qui voulait savoir si elle pouvait brûler ces végétaux verts sur son territoire. Donc je l'ai dirigée vers Alice et elle vous a raconté la fin de l'histoire. Voilà, donc c'est pas du tout anodin ce point info. C'est vraiment... on sait que bon nombre de collectivités, pour l'avoir pratiqué sur les agendas 21 ou téléphone, donc on fait le pari de se dire que sur cette thématique-là, comme les collectivités, elles ont l'habitude de travailler avec l'ARP, puisqu'on est quand même reconnu au niveau régional depuis un certain temps, on est l'outil qui accompagne depuis plus de 30 ans les collectivités sur l'environnement, elles nous appellent forcément. Donc du coup, c'est de ne pas laisser une collectivité sans réponse et de lui en apporter. Donc ça peut être un contact téléphonique, ça peut être un contact mail, ça peut même être un déplacement pour résoudre un problème sur site. Voilà sur le volet point info. Le deuxième volet, c'est on a créé une plateforme qui s'appelle Territoire Durable PACA.org, je vous ai mis le lien là. Et en fait, sur cette plateforme-là, on a créé une rubrique, donc il y a une ressource, on a des ressources thématiques, et on a créé une rubrique qui s'appelle Espace vert et naturel. Donc là, vous voyez pas très... Ah oui, vous voyez très bien, moi je vois très mal sur le micro, mais vous voyez bien. Donc on a créé cette rubrique-là avec un certain nombre d'outils qu'on essaye de vous mettre à disposition. Donc l'idée, c'est pas de vous noyer sous l'information, parce que quand vous tapez sur Internet, on peut très rapidement être noyé par les guides, mais c'est de classer l'information, la trier, vous mettre l'information qui est actualisée, c'est-à-dire les documents qui sont obsolètes, qui sont plus actuels, on les enlève. Donc c'est essayer de vous donner de l'information la plus précise possible pour vous aider à travailler sur cette thématique-là. Donc là, elle est constamment en construction, cette rubrique-là. Et vous trouvez sur cette plateforme de téléchargement différents documents qui étaient là et qui sont pas graves. Évidemment, vous trouvez ce guide-là qui est le guide de gestion différentielle d'usage des collectivités qui a été édité par Nature Paris, qui est très bien fait, qui vous donne un certain nombre d'informations. Donc, vous le retrouvez en téléchargement. Vous allez retrouver aussi en téléchargement un guide qui était là, mais vous avez dû le prendre. C'est l'association Jean-Tiane avec le Conseil Général de l'Isère qui a édité un document sous forme de fiche qui permet d'aider la collectivité à rentrer dans une gestion durable de l'espace vert. Donc ce document-là, il est en téléchargement et on a un peu entendu parler avec l'association Jean-Tiane pour 2013 pour en faire une version régionale, voire la participation des collectifs. Donc vous retrouvez un certain nombre d'outils et des documents, des fiches techniques que l'on fait également et que vous pouvez retrouver en téléchargement sur cette plateforme-là. Voilà sur le volet, ressources techniques et méthodologiques. Ensuite, sur le volet construction d'un réseau de collectivités, l'idée, c'est de vous proposer, en récupérant l'ensemble des... en récupérant les mails aux différentes journées auxquelles je participe, c'est de proposer par mail ce qu'on appelle un flash d'information mensuel, c'est-à-dire une veille et la diffusion de bonnes pratiques, mais directement sur vos boîtes mail. C'est-à-dire que cette étape-là, il faut que vous alliez chercher l'information sur le site internet plateforme. Là, c'est on vous met à disposition par un envoi sur vos mails d'une information, d'une actualité. Donc le flash d'information mensuel, c'est pas non plus vous inonder d'informations, mais c'est trier, vous proposer trois informations par mois, ciblées, Alors ça peut être sur de la réglementation, ça peut être sur des guides qui viennent sortir, et c'est ciblé sur trois infos. Voilà ce qu'on va vous proposer pour 2013. Ensuite, comme l'a expliqué Franck, c'est l'organisation de journées techniques régionales, où là, on capitalise un petit peu les bonnes pratiques et on essaie de vous faire participer, échanger sur ces journées-là. Évidemment, l'organisation d'ateliers pour les communes en lien avec les intercommunalités. Alors, ça peut être en lien avec les intercommunalités, ça peut être ce type de réunion-là qu'on fait. Dernièrement, on a fait une réunion, nous, à l'ARP, avec Aurélien Transon du Sabat, pour justement continuer et constamment à inciter les collectivités à rentrer dans la démarche. Alors, souvent, ces premières réunions, c'est ça. Ce sont des réunions d'information, pour vous dire ce qui existe et pour vous inciter à rentrer dans ce type de démarche-là. Les secondes, c'est bien plus précis, c'est précisément vous demander de quoi avez-vous besoin aujourd'hui, maintenant que vous connaissez ce dispositif-là, réglementairement, que vous connaissez ce qui existe sur le territoire, de quoi avez-vous besoin précisément ? Est-ce que vous avez besoin qu'on travaille sur l'écriture d'un cahier des charges ? Est-ce que vous avez besoin qu'on travaille plus précisément sur une technique particulière, par exemple la protection biologique intégrée ? Donc les réunions qui suivent, ce sont des réunions où on va plus précisément vous demander de quoi avez-vous besoin pour véritablement vous lancer dans la démarche. Et je terminerai par les différents outils qu'on vous met à disposition pour que vous, communes, vous puissiez communiquer auprès de vos administrés. Donc on a sorti ce document-là qui est, je ne sais pas si vous l'avez tous récupéré.
Il y a quelques-uns qui sont à disposition, au moins un par commune, je pense que ça serait bien.
Donc c'est un livret qui s'appelle « Jardiner sans pesticides ». Ceux qui ne l'ont pas récupéré. Là, en fait, l'idée de ce livret, c'est un document qui fait une quarantaine de pages et qui vous apporte, qui est destiné au grand public et qui va apporter, les premières pages expliquent les dangers des pesticides. Et les pages suivantes vont expliquer aux jardiniers des solutions et des astuces pour mettre en œuvre un jardinage responsable et respectueux de l'environnement. Donc ce document-là, vous l'avez un petit peu en avant-première. On l'a récupéré la semaine dernière. Nous allons en 2013 en faire une communication. Donc l'ensemble des collectivités va recevoir ce document-là, des communes de PACA. Pardon ? Alors, en fait, ce document-là, il existait déjà sur un certain nombre de territoires que sont le Luberon, la communauté de communes du Pays des Sorgues et Mont-de-Vaucluse, c'est pour ça que vous l'aviez eu, et le département du 04. Et en fait, parce que ces territoires-là travaillent depuis un certain temps sur cette thématique-là.
Le CG13 en avait fait aussi une version.
Et le CG13 pour sa manifestation Terroir 13. Comme on voyait que ça se multipliait un peu sur le territoire et que c'était un peu compliqué, les structures devaient passer par le CIVAM du Gard pour éditer le document. En fait, c'était un montage assez compliqué. Compliqué financièrement, assez coûteux. Les partenaires du comité de pilotage, on s'est dit que ça serait intéressant qu'on rachète les droits. Donc en fait, l'ARP a racheté les droits pour en faire une édition régionale. Donc on a ce document-là qu'on met à disposition des collectivités qui, si demain vous faites un événement ou une manifestation sur votre territoire et vous en avez besoin pour communiquer vers le grand public, vous nous le demandez et on vous en distribue un certain nombre. La commune de Miramas, par exemple, m'en a déjà commandé 103 pour les jardins familiaux. Voilà, parce qu'il y a 103 jardins familiaux sur le territoire de Miramas. pour que chaque personne qui a un jardin puisse avoir ce document-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'inonder la région et que chaque jardinier puisse en avoir un. Voilà, c'est un document qui est bien fait. Donc là, je vous l'ai mis, mais évidemment, vous l'avez, donc ça ne sert à rien que je vous passe ça. Ensuite, le deuxième outil qu'on met à disposition des collectivités, c'est une exposition qui s'appelle « Zéro pesticide dans nos villes et villages ». Là, c'est un petit peu la même démarche. C'est une exposition qui nous vient de la FN Loiret et qui a été reproduite par bon nombre d'autres, par bon nombre de partenaires également. Donc là, même démarche, on a racheté les droits. Et on est en train de travailler en ce moment sur, sur l'édition régionale de cette exposition-là. Ce sont 16 panneaux. Les 6 premiers panneaux abordent les dangers des pesticides et les 10 autres abordent comment répondre et comment on peut travailler avec les alternatives. Donc évidemment, je ne l'ai pas. Parce qu'elle est en construction, mais elle sera à disposition des collectivités pour janvier 2013 par un système de réservation tout bête assigné auprès de l'ARP.
Pardon ? Déjà, la réservation court déjà.
Il y a déjà un certain nombre de collectivités avec lesquelles je travaille, notamment dans le cadre des agendas 21, qui me l'a commandé. Miramas m'a déjà fait une commande pour le mois de... Voilà, pour le mois de janvier. Donc voilà, elle n'est pas encore sortie, mais on la réserve déjà. Donc, il ne faut pas hésiter. Je ne pouvais pas vous la montrer, je voulais un petit peu vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai extrait deux panneaux des pesticides. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont très... On est beaucoup dans le visuel. Plus que dans l'explication texte, même s'il y en a, évidemment, il y a de l'explication texte, mais on est beaucoup dans le visuel et c'est une expo qui passe très bien au niveau des collectivités qui réalisent des événements. Donc là, c'est deux panneaux un sur les communes et l'autre sur les alternatives avec le végétal qui travaille pour vous. Les insectes, droits de la lutte biologique et des astuces à recettes écologiques pour tout. Voilà, c'était juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est très illustré et ça passe bien. Je regarde le ciel parce que...
Oui, parce que nous, on a acheté cette exposition, voilà. On a fait un retirage, on a revu un peu la mise en forme. Du coup, en voyant l'initiale, je me dis, c'est bien, c'est plus léger ce qu'on a fait. En regardant tout le texte et toutes les illustrations. Mais c'est vrai que voilà, elle a beaucoup d'impact. Le gros intérêt, c'est qu'effectivement, c'est très illustré. Donc en fait, on a différents niveaux de lecture. Enfin, ça marche de 3 à 99 ans, quoi. Le message y passe, en fait. C'est vraiment super intéressant comme outil.
Est-ce que vous la prêtez, votre expo ? Parce que c'est une déclinaison en lagune, oui. un peu, cette exposition.
À la oui, lagune ça. Aussi. Alors oui, on la prête. On la prête sous convention. On a quand même une priorité territoriale. Donc, s'il y a des réservations sur les Palavasiens, au moment où ça vous arrange, on préférera l'exposer chez nous. Mais sinon, elle sait déjà pas mal balader en région et elle peut se balader même en Baca.
Donc ça, on pourra la mettre à disposition parce qu'on l'a en numérique, cette exposition, et puis c'est une déclinaison un peu en lagune de l'exposition de régionale. Quoi. Ça peut être intéressant.
Et pour finir, c'était vous présenter le dernier outil qu'on développe également sur le territoire régional. Alors ça, c'est une opération qui s'appelle « Jardiner au naturel, ça coule de source ». Qui est une opération qui est destinée à accompagner les collectivités à promouvoir des solutions sans pesticides auprès des jardineries de leur territoire. Donc avec le livret et avec l'expo, on était pour les collectivités pour faire des événements pour le grand public. Là, on est aussi pour les collectivités, mais pour travailler avec les jardineries. Mais évidemment, on touche aussi évidemment le grand public parce que l'idée, c'est de...
de changer les comportements des consommateurs, de les sensibiliser aux risques liés aux pesticides et de les inciter à se tourner vers des produits alternatifs. Donc là, nous, l'Agence régionale pour l'environnement, on est coordinateur régional de cette opération-là. Donc on accompagne les porteurs de projets locaux dans le montage et dans la mise en œuvre de cette opération sur le territoire. On réalise le bilan annuel. Et l'idée, c'est vraiment de proposer des outils communs et harmonisés. Donc une liste unique de solutions de jardinage au naturel avec une charte. Et avec des jardifiches, je vais vous les montrer plus tard. Et ensuite, une méthodologie commune avec un plan de formation qui est valable sur l'ensemble des, pour l'ensemble des porteurs de projets et des supports de communication qui sont évidemment identiques. L'idée, c'était d'harmoniser aussi tous les outils. Cette opération-là, elle est quand même préférentiellement intéressante pour les intercos, puisque c'est travailler auprès des collectivités qui ont des jardineries sur le territoire, mais une seule collectivité, il y a peu de jardineries sur le territoire, donc c'est une opération qui fonctionne mieux sur une commune, une communauté d'agglos, un syndicat, etc. Donc les enseignes éligibles sont les jardineries, les magasins de bricolage et les coopératives agricoles. Sont exclus de ce projet-là les grandes enseignes alimentaires comme Carrefour ou autres qui vendent néanmoins des produits. Mais en fait, comme il y a dans le package de cette opération-là, obligatoirement chaque année la formation des vendeurs dans les rayons des grandes surfaces type Carrefour, il n'y a pas de vendeur attitré au rayon produits jardin. Donc du coup, ce dispositif-là, il exclut des enseignes, de ces grandes enseignes-là. Donc l'intérêt du dispositif, c'est évidemment d'agir sur l'offre de produits au niveau des lieux de vente, c'est de changer les comportements auprès des consommateurs, c'est de proposer un kit d'outils qui est prêt à être imprimé et tout de suite, qui peut tout de suite être mis en place dans les jardineries, et c'est d'aider les entreprises de votre territoire à valoriser leur engagement. Donc ça, c'est des choses qui rentrent aussi beaucoup dans les collectivités qui sont en agenda 21 et qui proposent des actions en lien avec les entreprises de leur territoire. Donc à la charge du porteur de projet, la formation des vendeurs, l'impression des supports de communication. Donc ça fait à peu près un coût par jardinerie qui est de 1 000 euros. Donc au niveau des supports de communication, voilà, là ce sont les affiches que vous pouvez trouver dans la ville et en magasin. Donc là c'est au niveau de la banque d'accueil du magasin, vous pouvez trouver ça au niveau des caisses ou précisément au niveau du rayon où vous trouvez les produits. Ensuite, des réglettes, je ne vous les ai pas amenées, je suis désolée, j'y ai pas pensé. Trois réglettes avec trois messages. Les pesticides, c'est pas systématique, les désherbants polluent l'eau et les insecticides nuisent aux insectes utiles. Donc ces réglettes-là se glissent au niveau du rail pris sous les étagères. Et donc du coup, au rayon des désherbants, la jardinerie glisse ce type de réglette là. Donc rouge, c'est pas bien, et ça dit que pour faire un choix différent, adressez-vous aux vendeurs du magasin. Et au niveau des rayons où on trouve des produits alternatifs, on a ce type de réglette là qui est la réglette verte. Et au niveau du matériel, ce qu'on appelle des stop broches. Voilà, toujours avec la tête du petit jardinier, la tête du petit jardinier. Voilà ce que vous pouvez trouver dans les jardineries. Donc, bon, c'est un vrai effort au niveau de la jardinerie, c'est-à-dire que dans son rayon où elle vend des désherbants, elle met quand même quelque chose qui dit N'achetez pas ça, essayez, demandez à un vendeur et achetez autre chose.
C'est l'enseigne qui sélectionne les produits sur lesquels elle met les réglettes plus ou moins ou
Non, c'est le porteur de projet qui travaille avec l'enseigne et qui dispose les réglettes avec l'enseigne.
D'accord.
Concrètement, le parc du Luberon qui s'est lancé dans une démarche de réduction des phytos depuis 2-3 ans, mène aussi ce type d'opération-là. Donc il y a 15 enseignes au niveau du parc du Luberon, donc on est sur un bon nombre de communes, hein. Apte, Manosque, La Brianne, enfin bien ça, il y a en tout 11 communes, 15 enseignes et 11 communes. Clairement, c'est le chargé de mission du parc qui a travaillé avec le responsable du rayon ou le responsable du magasin pour placer les réglettes au bon endroit, évidemment. Oui, j'en ai pour encore 2 minutes. Encore autre type de support. Après les réglettes, on peut trouver des panonceaux sur certains produits comme les composts, comme les paillis, comme les plantes couvre-sol, comme les récupérateurs d'eau de pluie, enfin tout ce gros matériel très volumineux. On ne peut pas mettre une réglette, donc ce sont des panonceaux qu'on met directement sur les produits. Et ensuite, les jardins fiches qui sont en train de circuler, où là, on a dans le rayon concerné un présentoir avec 9 jardins fiches qui sont mis à disposition du client pour l'aider à travailler son jardin différemment. Voilà.
Merci. Merci beaucoup de votre attention. Donc, on va pouvoir passer à table.
Il y a peut-être
des questions déjà avant de passer à table, ou alors qui peuvent être réservées pour le début d'après-midi, parce qu'on commencera l'après-midi par un tour de table. Et oui, bon, en fait, chacun pourra se présenter et présentera également ses volontés en termes de démarche donc lancées au sein de leur commune. Ou déjà ce qui a déjà été enclenché donc par d'autres, voilà, ça sera un moment aussi d'échange avant discussion de fin de journée, bien sûr. Hein, de toute façon, il y aura d'autres présentations cet après-midi avec retour d'expérience notamment du ciel et de la mairie de Pérol. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, une question majeure à poser avant le repas, allez-y, hein, vous en prie. Ils ont tous trop faim. Bon, et eh ben alors si vous êtes tous trop faim, allons-y.
On commencera par le café tout à l'heure.
Un peu tout le monde du café, oui. Il est installé, tout est prêt. Tout est prêt.
Ça a l'air très bon, mais je dois en
blesser. Oui, je sais bien, Dominique.